Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Internet ainsi qu'à la radio. Nous sommes à notre deuxième dans la série de ce que notre frère François Le Picard est venu nous apporter ici au château Sanctuary pour nos 20 ans de vie de château. Et c'est hier soir, nous avons été bien gâtés. Amen. C'était bon. C'était bon. Les enfants étaient suspendus à ses lèvres à tel point que le frère François Le Picard avait les lèvres toutes déformées en sortant. Tous les gamins étaient pendus à ses lèvres. Non, c'était vraiment magnifique. Et, j'ai demandé aux enfants, ils m'ont dit, ouais, on a tout compris, c'était génial, c'était bien. Et il les a fait participer et tout. Et nous, ça nous a mis un peu de plomb dans la tête sur des choses bien pratiques. Et ça, je suis sûr que vous qui vous joignez à nous cet après-midi, ça va vous faire du bien aussi. Parce que c'est des choses dont on a besoin pour être assis vraiment bien dans notre position avec Jésus, dans une bonne relation avec lui et les uns avec les autres. Amen. Alors, je vous propose, on va prier. Alors, nous qui sommes dans la chapelle, on est tous debout pour prier. Allez, je vous demande de vous mettre debout. Vous êtes en voiture, mettez-vous debout. Non, vaut mieux pas. Si vous êtes en voiture, restez assis. Ne fermez pas les yeux non plus, mais vous pouvez prier quand même avec nous. Hein. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence avec nous. Nous savons que tu es là, Jésus. Nous savons que tu veilles à ce que nos cœurs soient bien réceptifs pour qu'on comprenne bien les choses que tu veux nous dire. Nous savons que tu veux parler au-delà des mots, au-delà des expressions, au-delà de toutes choses, à chacun de nos cœurs. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, de permettre que nous soyons vraiment bien éveillés pendant ces moments précieux durant lesquels notre frère va nous parler de ta part. Merci Jésus, parce que tu l'inspires, parce que tu le renouvelles, tu fortifies par ton Saint-Esprit, afin que toute chose se passe bien et que cela soit entièrement à la gloire de ton saint nom, Père. Dans le nom de Jésus, dans ton beau nom, nous te prions et nous savons que nous sommes déjà exaucés. On est content cet après-midi d'être là avec toi, autour de ta parole, avec ce frère que nous aimons tant, avec son épouse aussi. Et nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce moment privilégié. Que ton nom soit glorifié. Amen. Pouvez-vous asseoir. Alors, pour ceux qui prennent en cours de route, donc, comme je l'ai dit hier soir, je répète, nous fêtons nos 20 ans de vie de château. Ça fait plus de 20 ans qu'on vit en communauté, c'est depuis 1977 qu'on a commencé. Mais on vit au château depuis 20 ans. Et ça, c'est pas rien, hein. On n'a pas tous les jours 20 ans. Hein? Même ma fille, elle dit, ça n'arrive qu'une fois seulement. Et on s'arrangera bien pour fêter les 21 ans aussi, puis les 22 ans. Mais disons que 20 ans, c'est un beau chiffre, c'est quand même quelque chose de symbolique. Donc on est content et on voulait que ça soit exceptionnel. Voilà pourquoi on a invité un homme de Dieu que nous aimons particulièrement, quelqu'un qui est doux et humble de cœur, mon frère François Le Picard, que j'aime beaucoup. On ne peut pas dire j'adore, parce qu'on doit adorer que Dieu, mais c'est limite là, hein, parce que j'aime vraiment, vraiment ce frère. Et je suis tellement content, on a passé des bons moments à table, on a parlé, on a ri, on a été ému, on s'est raconté nos problèmes. Et parce que voilà, nous ne sommes pas des saints hommes de Dieu qui n'ont pas de problèmes. Nous avons des difficultés de la vie comme chacun d'entre vous qui écoutez. Mais avec Jésus-Christ, la vie est belle parce qu'il nous donne toujours les solutions et les choses viennent dans notre cœur et elles se gravent là et ça nous fait progresser, ça nous fait avancer. Et puis alors on s'en retrouve tout enrichi. N'est-ce pas Suzanne? C'est magnifique. On est content de te voir Suzanne aussi avec Prosper. On a deux Suzanne ce soir, cet après-midi. Alors on n'a qu'une Hortense, mais on a deux Suzanne. On n'a qu'une Liliane, on a deux Michel, on n'a qu'un Stéphane. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a en double encore ici? Non. Voilà, bon. Ben là, il n'y a qu'un Eric. L'autre Eric n'est pas là aujourd'hui mais parce qu'il est en stage, mais il va écouter ça sur Internet tout à l'heure. Que Dieu le bénisse, ainsi que tous ceux qui sont là pour nous, pour écouter, qui sont fidèles. Vraiment, on prie pour vous, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à nous écrire. On a un hôtel de prière sur lequel on met vos lettres et on prie pour vous. Et on a eu déjà beaucoup, beaucoup d'exaucements. Alors, n'hésitez pas à le faire. Je vais plus tarder, je vais laisser la place à notre frère. Alors on lui donne à peu près combien? 3 heures, 4 heures? Non. Je dis ça toujours aux frères africains parce qu'ils sont toujours très, très, très longs aussi. C'est terrible. Mais eux, ils répètent très souvent les mêmes choses. Alors que notre frère Le Picard, il va quand même droit au but. Ça va, on peut supporter 2 heures quand c'est droit au but. Mais quand c'est pour répéter Amen, Alléluia, n'est-ce pas vrai? Dis à ton voisin que, alors là, ça devient insupportable. Au bout de 2 heures, on n'en peut plus. Mais avec notre frère, c'est un régal. En tout cas, moi, je me suis régalé. Maintenant, je vais vous laisser découvrir toutes ces choses qui sont là. Pour ceux qui écoutent, qui n'ont pas vu, nous allons mettre les photos sur Internet pour que vous puissiez voir tout cet instrument de torture qu'on a dressé là sur la scène de la chapelle Sanctuary pour que vous puissiez voir. Mais enfin, je pense que c'est suffisamment bien expliqué pour que vous compreniez. Mon frère Le Picard, je te laisse toute la place. Fais comme le Seigneur te montre. je sais que ça va être bon. Amen. Mon frère le vicaire, vas-y.
Eh bien, bonjour frères et sœurs, que le Seigneur bénisse chacun et chacune d'entre vous. Je crois que cet après-midi, nous ne sommes plus des étrangers, les uns pour les autres, et aussi par les moments de fraternité que nous avons ensemble, les moments de partage, au moment des repas, eh bien, on apprend à se connaître un petit peu les uns les autres. Vous savez, je suis venu ici, sous l'invitation de votre pasteur, le frère Michel Janton, pas simplement pour venir vous enseigner la Bible, le message et tout cela. Je suis venu ici pour aller au-delà de la prédication. La prédication est nécessaire, c'est bon, c'est important, c'est une chose, mais la prédication doit conduire à un but. Et pour moi, le but, eh bien, c'est de pouvoir me rapprocher de vous, en tant que personne, en tant qu'individu, aussi bien des adultes que des enfants. Et je me suis fait déjà quelques bons petits copains ici. Hein. Alors, j'ai demandé de connaître vos prénoms aussi. Donnez-moi un petit peu de temps, je vais essayer de les mémoriser, mais je veux que vous sachiez que j'aime chacun, chacune d'entre vous, et que pour moi, les enfants sont aussi de précieuses âmes que Jésus aime. Et si Jésus est en nous, si Jésus est en moi, eh bien, il y a quelque chose qui doit transparaître, qui va au-delà des mots. C'est ce que je crois. Disons, les mots sont une chose, les paroles, les mots véhiculent un message, mais ça doit conduire à quelque chose sur le plan personnel, sur le plan humain. Et le thème que Dieu a mis sur mon cœur de vous apporter, qui est donc celui-ci, relation au pluriel et position au pluriel, le thème peut-être, le sujet paraît un petit peu abstrait. C'est pour ça que nous avons utilisé quelques supports visibles, matériels, pour que vous puissiez visualiser que c'est en fait quelque chose de très très simple, quelque chose qu'on vit tous les jours, où que l'on soit, eh bien, on est confronté à cela. À des relations avec d'autres personnes, des relations avec Dieu, mais ces relations sont aussi en fonction de la position que nous avons nous-mêmes et de la position de l'autre personne. C'est pas simplement, oui, les relations publiques, comme on dit, mais les relations avec d'autres sont influencées par ce qu'est l'autre personne, qui elle est, ce qu'elle est, quelle position elle occupe, et qui suis-je, quelle position moi j'occupe. C'est ce que nous avons commencé à voir un petit peu hier soir. Et je crois que c'est bon d'apprendre à se connaître mieux soi-même et de s'intéresser aux autres. Donc, j'apprécie ces moments de fraternité avec vous parce que je vois qu'on s'intéresse les uns aux autres, on s'ouvre les uns avec les autres, on partage un témoignage, une expérience et tout cela. Et je crois que c'est nécessaire d'apprendre à se connaître d'une façon un peu plus personnelle, tout en se respectant, on sait qu'il y a aussi des limites, mais dans le but, disons, d'établir des relations, des liens. Et nous avons utilisé ainsi des cordes, c'est une inspiration que Dieu m'a donnée, comment concrétiser ou montrer d'une façon visible ce qu'est une relation. Le mot relation est quand même assez abstrait pour beaucoup, spécialement peut-être pour les enfants, mais quand on dit « toi, une relation », comme on l'a fait hier soir avec Nathanaël, eh bien, c'est comme une corde qui nous relie l'un à l'autre. Toi, tu tiens un bout, moi, je tiens l'autre bout. Je pense que vous avez compris ça, les enfants. Hein. Donc, vous pouvez avoir des relations entre frères et sœurs de la même famille, avec d'autres enfants de la communauté, avec d'autres enfants à l'école. Donc, chaque fois que vous avez contact avec quelqu'un, eh bien, ça peut être le point de départ d'une nouvelle relation. Mais maintenant, on doit savoir, est-ce que je veux cette relation ou est-ce que je ne la veux pas? Qu'est-ce que cette relation peut m'apporter? Qu'est-ce que moi je peux apporter à l'autre personne au travers de cette relation? Donc ce sont des choses, des fois, qu'on fait automatiquement, mais peut-être pendant ces quelques réunions, eh bien, on va peut-être se poser certaines questions pour essayer de comprendre pourquoi Dieu aime les relations, pourquoi Dieu nous a créés. Mais on va peut-être, pour commencer, lire un passage de la Bible. Nous voulons appuyer ce que nous disons sur la parole de Dieu. Donc nous ne sommes pas ici en cours de psychologie ou de choses comme ça, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, mais nous voulons trouver notre inspiration dans les Saintes Écritures et j'aimerais que nous lisions dans le prophète Malachie, donc le dernier prophète de l'Ancien Testament, juste avant le livre de Matthieu. Donc Malachie, chapitre 1er. sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque je vis un bon moment, je suis dans une bonne atmosphère, un bon moment, je ne vois plus le temps passer. Ça vous arrive aussi? Et on pourrait dire, eh bien, c'est comme si on était déjà rentré dans l'éternité. On perd toute notion du temps. Et aussi au moment du repas de midi aujourd'hui, eh bien, on commence à parler avec l'un ou avec l'autre. Et puis après, on s'intéresse, on se passionne pour ce qu'on entend, pour ce qu'on peut dire. Et, et on sait que quand on est intéressé par quelque chose, on ne veut pas toujours regarder la montre. Ça donne l'impression à l'autre, écoute, tu me rases, arrête, maintenant c'est fini. Et c'est surtout pas l'impression que je veux donner. Je m'intéresse à ce que vous me dites, à votre personne. Et je vois que vous vous intéressez aussi à ce que je peux partager avec vous. Et le temps passe. Et quand on a regardé l'heure, c'était presque l'heure de la réunion. Il a fallu mettre les gaz pour être plus ou moins à l'heure ici. Mais disons, je crois que c'est bon. Disons que, vous savez, lorsque mon épouse et moi, nous repartirons lundi matin, eh bien, on ne sait pas quand on se reverra. Mais je prie, disons, que Dieu puisse laisser quelque chose dans votre cœur, qui puisse être utilisable dans votre vie de chrétien tous les jours. Nous ne sommes pas importants. Nous sommes des êtres humains comme vous, avec nos qualités, nos défauts. Mais si le Seigneur peut donner à chacun un petit quelque chose de pratique, de concret, que ce soit les jeunes, les plus âgés, eh bien, quand vous... La semaine prochaine, il y a peut-être certaines choses qui vont ressortir, dire, mais tiens, mais ce que j'ai entendu, ce que j'ai reçu dans mon cœur, ça m'aide à avoir de meilleures relations avec mon entourage. Et ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord sur tout, mais je vous donnerai quelques exemples et témoignages qu'on peut avoir de très bonnes relations avec des personnes avec lesquelles on a beaucoup de divergences sur certains points. Même si on ne voit pas de la même façon, sur des points même importants, mais on peut avoir certaines très bonnes relations avec ces personnes. Et quand on a de bonnes relations, eh bien, on peut se voir, on peut se sourire, on peut se saluer, on peut se faire du bien, en sachant, eh bien, lui n'est pas moi, moi je ne suis pas lui, mais malgré tout, il y a le courant qui passe. Et pour moi, c'est quelque chose d'important, quelque chose qui a de la valeur. Donc, lisons pour commencer dans le prophète Malachie, au chapitre 1er, et au verset 6. Malachie, chapitre 1er, verset 6. « Un fils honore son père, et un serviteur son maître. » Regardez, il est parlé de fils. Être fils, c'est une position. Vous comprenez cela? Non? Il y a des fils ici, il y a des filles qui sont ici. C'est une position que l'on occupe. Le père, la position, la fonction de père, eh bien, c'est aussi quelque chose de particulier. Il parle maintenant d'un serviteur. Ça, c'est aussi une fonction, une position, serviteur. Et parallèlement, il a un maître. Eh bien, là aussi, c'est une fonction, c'est une position. Et ça parle de relation. Quelle relation un fils devrait avoir avec son père? Quelle relation un serviteur devrait avoir avec son maître? Je continue la lecture. C'est Dieu qui parle. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc, remplir le rôle de père, c'est une fonction, c'est une responsabilité, c'est quelque chose de très important d'être un bon père. Mais maintenant, ça veut dire qu'on a aussi le droit d'attendre un retour de la part des enfants. Dans toutes les relations, ce n'est pas à sens unique. Ça, on donne quelque chose et on reçoit quelque chose. Quelle que soit la relation, c'est toujours, ça vient toujours des deux côtés. Donc là, Dieu pose la question, si je suis père, comme vous dites, ô Père Céleste, Dieu dit, alors si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Un père a le droit de recevoir l'honneur de la part de ses enfants. Il continue, si je suis maître, est-ce qu'il est maître? Oui, il est maître. Vous êtes d'accord? C'est notre maître. Mais il dit, mais si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? La crainte qui est associée au respect aussi. Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs. Donc il s'adresse même à des gens d'église, des gens religieux, des gens dans le ministère. À vous sacrificateurs. Là encore, c'est une fonction, le sacrificateur. Qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Voilà, bien, prions le Seigneur. Père Céleste, nous nous retrouvons encore une fois cet après-midi dans ta maison. Et nous savons que tu es ici parce que nous avons invité ta présence. Nous sommes venus pour te rencontrer. Nous nous sommes déjà vus les uns les autres plusieurs fois aujourd'hui, mais Seigneur, maintenant nous sommes venus pour autre chose, un autre but. C'est de te rencontrer, toi, le Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Et si nous prenons ces moments que nous mettons à part, c'est parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, nous ne pouvons pas être autosuffisants. Nous avons chacun des qualités, un potentiel, mais nous avons besoin de ton aide, de ton soutien, de tes encouragements, de ton exemple. C'est pour ça, Seigneur, eh bien, humblement nous inclinons devant toi cet après-midi. Nous te disons, Seigneur, parle-nous. Seigneur, révèle-toi à nous, approche-toi de nous. Seigneur, tu es dans cette autre dimension qui est invisible pour nos yeux humains, mais la Bible parle aussi des yeux de notre cœur. Eh bien, Seigneur, que ces yeux-là puissent s'ouvrir à ta présence parmi nous cet après-midi. Que nous puissions te voir, que nous puissions t'entendre en disant, mais ça, c'est pas un homme qui me parle, c'est Dieu qui me parle. Ce que je vois en face de moi, c'est pas juste un homme qui vient d'ailleurs, qui est ici en visite, mais je veux voir au-delà de cet homme. Je veux voir que Jésus est ici aujourd'hui, parce qu'il est le même aujourd'hui, et que ce même Jésus a quelque chose à me dire pour m'encourager, pour m'aider. Seigneur, moi aussi j'ai besoin de cela. Seigneur, j'ai les mêmes besoins que ces bien-aimés. J'ai besoin de te voir, j'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin de te toucher, j'ai besoin de m'unir à toi. Seigneur, aide-nous cet après-midi. Tu connais les besoins. Seigneur, tu connais chacun d'une façon tellement personnelle, tellement intime. Seigneur, à toi on ne peut rien cacher. Tu connais ce que nous faisons, ce que nous disons, et tu connais même ce que nous pensons. C'est pour cela, Seigneur, eh bien, vois la sincérité de nos cœurs et viens nous aider, nous parler, nous encourager, que chacun, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, sente que tu es proche d'eux et que tu les aimes. Tu t'intéresses à nous, tu veux notre bonheur et tu aimerais, tu brûles d'envie d'établir de nouvelles relations avec nous qui nous unissent à toi, des relations d'amour. Père, aide-nous encore. Nous nous confions en toi et te donnons déjà toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Bien, merci. Prenez place, s'il vous plaît. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste dire ceci, que votre pasteur m'a envoyé aussi la brochure intitulée « Miracle ». Et je voudrais dire ceci, bien que j'apprécie le ministère de votre pasteur, son fardeau pour les âmes, son désir d'aider les gens, que ce soit ici en France ou à l'étranger. Et je remercie Dieu pour l'appel, le ministère que Dieu lui a donné aussi pour prier pour les malades, et la foi que Dieu lui a donnée dans la guérison divine. Et je crois à ces miracles. Je n'ai pas besoin d'être à côté de lui, de les voir de mes propres yeux. Si on me dit « il y a eu un miracle », je dis « merci Seigneur, il y a eu un miracle ». Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Et je me réjouis avec tous les besoins que les gens ont aujourd'hui, eh bien que quelqu'un vienne leur donner un espoir, une espérance, qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui n'a pas changé et qui est capable aujourd'hui encore de sauver, de délivrer, de guérir, d'encourager, de fortifier. Et je prie que Dieu te bénisse, frère Michel aussi, et sœur Michel aussi, dans votre travail, aussi bien localement qu'à l'extérieur, et que Dieu puisse continuer à vous utiliser pour être une source de bénédiction et de reconnaissance et de joie de la part de toutes les personnes que vous pouvez aider. Et vous êtes vous-même aussi le fruit de ce ministère. Et bien, je me réjouis pour cela et que Dieu soit glorifié pour cela. Donc, j'aimerais aussi vous citer une parole de frère Branham, que je considère comme un authentique prophète de Dieu dans les temps de la fin, un ministère qui était annoncé dans plusieurs endroits des Écritures. Certainement que votre pasteur vous en a déjà parlé, mais peut-être juste, vous savez, j'aimerais dire ceci, quand on veut établir une relation avec quelqu'un, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler là-dessus, disons, il y a aussi quelque chose qui m'a aussi vraiment touché, mais pour établir une relation durable et solide avec quelqu'un, quelle que soit la personne, ça peut être le conjoint, ça peut être une relation amicale ou comme cela, Il faut être vrai avec la personne. Il faut être transparent. Si, vous savez, dans les relations humaines, c'est un petit peu la nature de tout individu, quand on se présente à quelqu'un, on essaie de montrer ses bons côtés. N'est-ce pas vrai? Vous cherchez un travail, un emploi, alors vous essayez, on dit, il faut savoir se vendre, c'est-à-dire mettre en évidence ses qualités, ses capacités, ses aptitudes et toutes ces choses-là. Tout ça, c'est bien. Disons et des fois, peut-être nous chrétiens, des fois, on veut tellement être humble et modeste et tout cela qu'on ne veut pas se mettre en avant. Mais il y a, je crois, un équilibre à trouver. On est ce qu'on est, on a des qualités, on a des faiblesses aussi. Mais pour que les gens puissent nous faire confiance, pour que les gens puissent nous apprécier, eh bien, il faut être vrai, il faut être honnête, il faut être authentique. Il faut montrer, oser montrer les qualités qu'on a ou les capacités qu'on a, mais il ne faut pas avoir peur non plus de révéler certaines faiblesses qu'on peut avoir. Et de telle manière qu'une fois qu'on apprend à mieux se connaître, que l'autre personne qui nous a fait confiance ne puisse pas par la suite découvrir quelque chose, peut-être de négatif, qu'elle ne savait pas dès le début parce qu'on le lui a caché. Et à ce moment-là, ça peut créer des déceptions, dire « Ah, mais la personne n'était pas honnête avec moi, elle n'était pas franche avec moi », et ça peut nuire à la qualité de la relation. C'est pour ça que je crois que c'est important, disons, il n'y a pas besoin de raconter toute sa vie, peut-être dans tous les détails, mais quand même de montrer honnêtement qui nous sommes. Et si Dieu le permet, peut-être on trouvera un moment pour parler de cela par rapport au Seigneur Jésus, même par rapport au prophète que Dieu nous a envoyé, frère William Branham. Et c'est ça que j'ai apprécié dans cet homme. Non seulement son don de prédicateur ou le ministère que Dieu lui a donné, mais j'ai apprécié l'homme. Je dirais ceci, pour moi, c'est un homme vrai, un homme honnête, un homme à qui je peux faire confiance. Et je dis ceci, après avoir maintenant quand même étudié son message pendant plus de 40 ans maintenant, donc, et encore tellement de choses que j'aimerais connaître et comprendre, mais et je l'ai écouté lui, j'ai écouté des membres de sa famille, j'ai écouté des gens qui l'ont connu personnellement, mais chaque fois, même j'ai rencontré des pasteurs en Suisse qu'il avait côtoyé quand il est venu en Suisse, qui n'ont pas accepté le message, mais qui ont connu l'homme, William Branham. Mais chaque fois, de tous les témoignages que j'ai entendus, eh bien, les mêmes paroles ressortent. C'était un homme sincère, c'était un homme humble, c'était un homme vrai, et c'est ce que je crois de tout mon cœur. C'est pour ça que je dis, Seigneur, c'était pas un homme parfait, mais j'ai vu Jésus en lui. Jésus qui est, lui, le seul homme absolument parfait, qui est notre modèle à tous. Mais quand quelqu'un a vraiment reçu Christ, Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie, par un authentique baptême du Saint-Esprit, eh bien, il y a une vie qui doit suivre. Certains sont appelés à parler de lui, hein, les prédicateurs ou comme ça, on parle beaucoup de lui, mais c'est plus que parler. Si vraiment lui et nous, nous devenons un, après c'est une vie qui doit sortir de nous, être exprimée naturellement, spontanément, sans se forcer, je dois faire ceci, je ne dois pas faire cela, c'est plus je ne dois pas, je suis ce que je suis, et je me détends, hein. Je n'ai pas besoin de me crisper en disant « oui, mais je vais aller là-bas, mais il faut que je montre une bonne image, que les gens aient une bonne impression de moi ». Non, non, je veux être juste moi-même, être vrai. Et probablement, si je devais vivre quelques jours, quelques semaines avec vous ici au château de la communauté, eh bien, vous apprendriez à mieux me connaître et vous verriez que j'ai aussi des défauts. J'ai des points dans ma vie, dans mon caractère que j'aimerais surmonter, mais c'est moi. Et je crois que l'amour, le vrai amour, c'est de pouvoir s'accepter les uns les autres tels que nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'on apprécie les mauvais traits de caractère qu'on puisse avoir, ça, c'est des fois désagréable, ça fait de la peine, mais c'est comme ça que Dieu est avec nous. On aime chanter ce chant tel que « Je suis sans rien à moi ». C'est comme ça qu'il nous accepte. Il ne dit pas « François, sois parfait, puis après tu pourras venir dans ma sainte présence. » Non, j'aurai aucune chance, et vous non plus. On veut être meilleur, on veut être parfait, on aimerait cela, mais par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il peut nous aimer tels que nous sommes, avec nos qualités et aussi avec nos défauts. Et il aime qu'on soit vrai avec lui. On sait qu'avec le Seigneur, on ne peut pas lui raconter des histoires. Il sait tout de nous. N'est-ce pas vrai? Il sait tout. Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie que vous n'avez dites à personne, même pas à vos proches. Mais le Seigneur les connaît déjà. Il les voit, il les connaît. Donc on ne peut pas faire les malins avec lui. On ne peut pas avoir une façade ou un vernis. Ça ne passe pas avec lui. Comme la Bible dit que devant lui, tout est nu et découvert. Et personnellement, je veux garder mes yeux sur le Seigneur Jésus, dire « Seigneur, tu t'es mis à découvert devant moi, tu t'es présenté tel que tu étais et tu es un vrai homme. Eh bien Seigneur, aide-moi aussi à être un vrai homme, être comme je suis. Je voudrais être encore plus comme toi, mais je suis en route, agis encore en moi, mais qu'aujourd'hui les gens n'aient pas une fausse image de moi. » Vous savez, des fois, on peut idéaliser les gens, hein. On peut dire « Oh, mon pasteur » ou « ce pasteur » comme ça. On peut dire, ah, mais ça, ce sont des saints, ce sont des saints hommes et tout cela. Non, mais n'idéalisons pas quelqu'un ou quelque chose. Non, il y a toujours deux faces à la médaille, comme on dit, hein. Donc, des fois, on voit un côté, mais il y a toujours un autre côté. Et si on est vrai les uns avec les autres, eh bien, il n'y aura pas de déception. On dira « Oui, bon, ben, tu es comme moi, moi aussi, j'ai deux côtés. Eh bien, tu as deux côtés. » Aimons-nous, respectons-nous, apprécions-nous les uns les autres et entraidons-nous. On a tous un désir, c'est d'être comme Jésus, d'arriver à la stature d'un homme parfait dont l'apôtre Paul parle dans les Éphésiens. Mais pour ça, on a besoin les uns des autres. Et un frère disait ceci, il s'est marié sur le tard, il disait « Mais tant que je vivais seul, avant de m'être marié, je croyais que j'étais parfait. » Mais depuis le jour où je me suis marié, j'ai vu que je n'étais pas parfait. C'est vrai. Quand on doit se frotter les uns aux autres tous les jours, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans la communauté, ou au travail, ou à l'école, c'est là qu'on voit qu'on aimerait toujours au top, toujours vraiment impeccable, et qu'on puisse rien nous reprocher. Puis en fait, ce n'est pas vrai. Il y a des moments où on n'est peut-être pas en forme, où on n'est pas bien, ou il y a quelque chose qui ne joue pas, et quelqu'un le verra. Mais personnellement, je n'ai pas peur de cela. Non, si je fais une faute, je suis prêt à m'humilier, à me repentir. Je ne veux pas rester comme ça, mais je veux être vrai. Et c'est une petite chose, je crois, aussi importante. Déjà, vous laisser comme cela, vous le savez certainement déjà, mais pour avoir de bonnes relations, eh bien, il faut être transparent les uns avec les autres. Il ne faut pas que l'autre personne dise, mais ça paraît trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qu'il me cache? Non, je ne cache rien. Vous voulez me poser des questions? Eh bien, je ne suis pas un membre de votre église, je ne suis pas votre pasteur, mais je suis disponible. Si vous avez des questions à me poser sur qui je suis, sur ce que je fais, sur mon passé, vous avez le droit de savoir. Vous savez, je crois qu'on est dans un monde où, comme on dit, les gens deviennent des fois, spécialement en France, en Suisse, réfractaires à l'évangile. Hein, on essaie de leur parler, « Oh non, garde tes bondieuseries pour toi, j'ai pas besoin de ta religion, tout ça. » Mais pourquoi les gens sont devenus comme cela? Beaucoup ont été déçus par le christianisme, par les prédicateurs, par le clergé et tout cela. Ils disent « De toute façon, ce sont que des hypocrites, aussi bien le clergé, les prédicateurs, les membres et tout ça, ces gens qui vont à l'église pour se donner bonne conscience. Moi, je veux pas ça. » Mais je crois, demander à n'importe quel être humain, peu importe s'il croit ou ne croit pas, est-ce que tu as soif de réalité? Est-ce que tu as soif d'authenticité? Que tu puisses dire, c'est vraiment comme ça, puis c'est pas autrement. Je crois que c'est dans le cœur de chacun. N'est-ce pas vrai? Un besoin, une soif de réalité. C'est ça que j'apprécie chez les enfants. Ben, j'ai passé par là et chez les adolescents. Eh bien, il y a ce côté un petit peu absolu. C'est juste ou c'est faux? C'est blanc ou c'est noir? On a ce besoin-là. C'est pour ça que j'apprécie cela. Quand on devient un peu plus âgé, bon, on dit oui, mais c'est comme ça, mais il y a aussi ceci, puis on commence à nuancer, puis c'est plus ni tout à fait blanc, c'est plus tout à fait noir, ça devient un peu grisâtre et tout cela. Et c'est ça des fois qui peut-être qui déstabilise les jeunes, parce que pour eux, mais est-ce que c'est la vérité ou c'est pas la vérité? Est-ce que l'image que j'ai de toi, c'est la réalité ou bien que tu es comme un acteur, tu joues un rôle? Est-ce que c'est du cinéma ou c'est vraiment la réalité? Peut-être je pourrais vous dire ceci. Vous savez, J'aurais souhaité avoir un peu plus de temps pour me préparer pour la réunion, mais bon, ça ne s'est pas donné. Mais je prie que le Saint-Esprit m'aide à simplement vous dire des choses que Dieu met sur le cœur, qui sont sincères, qui sont vraies, qui peuvent vous aider. Notre fille aînée vraiment était très engagée dans la foi, dans l'Église pendant pratiquement toute son adolescence. Et à un certain moment, eh bien, elle a désiré prendre du recul et tout cela. Et puis, tout à coup, elle est partie dans la direction opposée de ce que nous lui avions enseigné concernant la vie chrétienne. Et pour un papa, une maman et surtout en plus un pasteur, ça c'est difficile. Je parle donc bien de ma fille aînée cette fois. Et sans entrer dans tous les détails, c'était vraiment, vraiment tout le contraire. Et ça nous a fait terriblement mal à tel point, elle n'était plus à la maison à ce moment-là. On voulait aller la voir parce que c'était toujours notre fille, on l'aimait. Mais juste de la voir, ça nous fait tellement mal de voir que ce n'était plus la fille qu'on avait connue pendant toutes ces années précédentes. Ça, c'était une souffrance. D'un côté, on était heureux, d'un autre côté, on souffrait. Et semblait que c'est comme s'il voulait nous provoquer. Elle savait qu'on désapprouvait un certain comportement, mais c'est comme si elle fait exprès de faire justement comme ça pour voir notre réaction. Mais je peux vous dire une chose avec du recul maintenant. Je remercie Dieu pour cette expérience. Je crois que rien ne nous arrive par hasard. Si nous sommes fils et filles de Dieu, on l'a vu hier soir, tout concourt à notre bien. Et quand bien même je suis un prédicateur de l'Évangile, Dieu veut plus pour moi que d'être un bon orateur. Je n'ai jamais pris de leçons, de diction, de tout cela, mais Dieu veut plus. Peut-être que des fois je fais mal une phrase ou de mauvais accords, des choses comme ça, mais Dieu veut qu'il y ait quelque chose qui puisse rester ensuite. Et il fallait que moi, personnellement, eh bien, j'expérimente dans ma chair, dans ma vie, ce que je prêche. Que je ne dise pas simplement aux autres, faites ceci, ne faites pas cela, voilà ce que Dieu veut pour vous. Non, Dieu voulait que moi, François, eh bien, j'ai moi-même vécu certaines choses personnellement. Et que je parle non seulement par connaissance, mais par expérience. Et il y a une chose que notre fille nous a dite à mon épouse et à moi. Elle a dit, papa, maman, je ne peux plus vivre. Je ne peux pas vivre comme vous vivez. Mais je sais une chose, pour avoir vécu avec vous, vous n'êtes pas des hypocrites. Et j'ai pris ça comme un compliment. Qu'elle nous connaissait suffisamment pour avoir vécu, en tout cas 18-19 ans avec nous à la maison. Elle nous a vus tous les jours, le dimanche, la semaine, tous les jours et tout cela. Mais elle savait une chose, papa et maman ne sont pas des hypocrites. Eh bien, aujourd'hui, nous avons d'excellentes relations avec elle et tout cela. Elle a fait son chemin, plusieurs expériences et tout cela, mais on a une très, très bonne relation avec elle. Vraiment, on est très, très proches. Elle n'est pas revenue à l'Église et tout cela, mais elle a beaucoup de respect pour ce que nous sommes, pour ce que nous croyons et une très grande confiance en nous. Vraiment, Dieu a fait un très, très grand travail et on sait que le Seigneur a un plan pour chacun et chacune, mais déjà qu'elle sache que ce n'est pas du cinéma, ce qu'on croit, on le vit et on veut le vivre le mieux possible. Sans être parfait, j'ai fait beaucoup de fautes, ou c'est d'éducation avec mes enfants, ou des fois je les ai corrigés, on a eu 4 filles, je les ai corrigés dans la colère. Je suis assez patient et je dis, ne fais pas cela. Et vous savez comment c'est les enfants, ils vous testent et le font quand même. J'ai dit, mais je t'ai dit, ne fais pas cela. Si tu le fais, ça risque de mal tourner. Et l'enfant continue à le faire. Il veut voir jusqu'où vous allez avant de craquer. Donc, j'ai souvent passé par là. Je ne sais pas, ça peut aider certains parents parmi nous comme ça, mais j'ai passé par là. Pourtant, des gentilles filles, on s'aime beaucoup, on a une très bonne relation, mais c'est un peu dans la nature de l'enfant de voir jusqu'où je peux aller avant que vraiment papa se mette en colère. Mais des fois, elles ont réussi. Et à ce moment-là, eh bien, je les ai corrigées. Physiquement. Maintenant, je sais qu'on ne peut plus tellement le faire parce que les enfants peuvent dire à la police, mais après, on nous retire les enfants. Donc, c'est vraiment excessif d'un autre côté. Mais c'était faux. Et le prophète de Dieu, Frère Branham, a dit ceci aux parents, ne corrigez pas vos enfants dans la colère. Parce que quand vous faites cela, eh bien, quand vous frappez l'enfant, vous frappez l'ange qui est à côté de l'enfant. Et parce que je l'ai fait, des fois, je suis sorti de mes gonds. et ma punition, ma correction, mon châtiment corporel était excessif par rapport à la faute commise. Mais j'étais hors de moi. Mais qu'est-ce que j'ai dû faire? Déjà à ce moment-là, et bien après, j'ai dû retourner vers mes filles en disant, eh bien, pardonne-moi, je t'ai corrigé dans la colère, c'était faux. Parce que je ne savais pas, j'étais un jeune papa et je ne savais pas, j'ai dû apprendre beaucoup de choses. Mais j'ai voulu chaque fois reconnaître mes erreurs, retourner vers mes filles qui étaient des adolescents, des fillettes, et dire, pardonne-moi. C'est pas que je voulais te faire du mal, mais j'aimerais que tu fasses les choses correctement, mais là, j'étais trop loin. Veuillez me pardonner. Et je crois que c'est peut-être à cause de choses comme cela que nos filles, eh bien, elles ont du respect pour leurs parents. C'est que ce n'est pas les parents intouchables, ce n'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire, ce n'est pas toi qui vas me dire que je fais des fautes. Non, ce sont des parents faillibles, des parents imparfaits, mais qui souhaitent faire le mieux possible. Donc, merci Seigneur Dieu. Et bon, j'aimerais donc lire cette citation du prophète William Branham, que je respecte dans cette fonction, parce que je crois que Dieu a confirmé son ministère, mais sa vie aussi d'homme, eh bien, est une vie authentique. Et frère Branham, eh bien, nous a dit aussi, nous a parlé de faiblesse qu'il avait. Mais je ne vais pas entrer là-dessus. Et je dis, mais si quelqu'un avec un ministère si puissant, eh bien, a le courage, publiquement, de révéler certaines faiblesses qu'il a, eh bien, je peux avoir confiance en lui. Ça se trouve dans le livre « L'exposé des sept âges de l'Église » que plusieurs d'entre vous connaissez, à la page 372 en français. Et il dit ceci, « À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. » J'ai, en revanche, un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une chose. Je serai satisfait si je peux réaliser une chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle, véritable, entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplies de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonniez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. J'aime ces paroles. Je serai satisfait si je peux voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Et j'aimerais prendre ces paroles pour moi cet après-midi. Je suis venu ici pas juste pour faire un petit voyage en France, j'ai aussi beaucoup d'autres choses à faire, mais pour essayer de vous encourager à développer, à affermir vos relations, pas seulement vôtres, mais vos relations avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que j'aimerais encore prendre un peu de temps pour parler de lui, du Seigneur Jésus-Christ et de nous. Quelle relation ai-je en tant qu'individu avec ce Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu manifesté, Dieu exprimé? Et de voir, mais comment est-ce que lui agit à mon égard? Comment moi j'agis à son égard? Comment ça se passe entre nous? Est-ce que le courant passe bien? Est-ce que je lui fais plaisir? Est-ce que je lui fais de la peine? J'aimerais parler de cela. Et il y a tellement à apprendre de lui. Comme Jésus a dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Recevez mes instructions. On a tellement à apprendre de lui. Et si on a bien compris sa manière d'agir pour établir, maintenir ou rétablir des relations, après, c'est facile. Je vous dirais, c'est vraiment facile quand on a regardé à la manière d'agir du Seigneur Jésus. C'est facile pour nous d'appliquer cela dans nos relations entre êtres humains. Et je dis vraiment merci Seigneur pour cet exemple. Pas seulement pour cet enseignement, pour cet exemple. Et vraiment, je remercie Dieu pour cela. On sait que Dieu sait toutes choses et quand il a créé Adam et Ève, Il savait très bien ce qu'ils allaient faire. Il n'a pas été pris par surprise. Il savait d'avance qu'il désobéirait à sa parole. Maintenant, on pourrait penser que, étant le Dieu Tout-Puissant, il aurait pu dire « Je ne veux pas que ça arrive ». Et Dieu aurait pu s'interposer entre Ève et le serpent, disant « Ève, tu ne le feras pas. Que tu le veuilles ou non, tu ne le feras pas, je suis entre deux. » Il aurait pu s'interposer, n'est-ce pas vrai? Quand on est Tout-Puissant, quand on est Dieu, on fait ce qu'on veut. Il avait de compte à rendre à personne. Et Dieu aurait pu empêcher Ève de se laisser piéger par le serpent. Mais il ne l'a pas fait. Il a simplement donné sa parole en disant « Voilà ce que vous pouvez faire et cette chose-là, ne le faites pas. » Maintenant, si vous le faites quand même, il y aura des conséquences que vous devrez assumer. J'aime quand Frère Branham dit ceci « Dieu n'envoie personne en enfer. Les gens s'envoient eux-mêmes en enfer. » Parce que Dieu est amour. Dieu ne veut pas que les gens soient perdus. Dieu voudrait que tout le monde soit sauvé. Mais Dieu a donné à l'homme un privilège qu'aucune autre créature n'a. C'est le libre arbitre. La possibilité de choisir pour lui-même, de faire ses propres choix. Et ce qui me frappe avec Dieu, c'est que d'un côté, il est tout puissant. Donc, s'il veut imposer quelque chose, il peut le faire. Mais pour pouvoir révéler tous ses attributs, il nous laisse le libre arbitre. Et il nous laisse faire des choix que parfois même il désapprouve. Et il n'interfère pas, il ne s'y oppose pas. Et Adam et Ève ont justement choisi ce qu'ils n'auraient pas dû faire, et Dieu les a laissés faire. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent quelque chose. Et combien de fois, vous et moi, nous avons fait des choix, pris des décisions qu'on n'aurait pas dû prendre comme cela. N'est-ce pas vrai? Ou on s'est trompé. Pourquoi? Parce que des fois, ça c'est une question d'orgueil humain, on se croit tellement capable, tellement intelligent, qu'on dit « mais je n'ai pas besoin de conseils, je n'ai pas besoin d'aide, mais je suis assez intelligent, je peux, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qui est bon pour moi. » Et si on a cette idée que nous sommes autosuffisants, qu'on n'a besoin ni de Dieu, ni de notre prochain, Dieu dit « fais tes expériences ». Et nous faisons nos expériences, et des fois elles sont douloureuses, elles sont cuisantes, des fois on se fait très très mal. Mais le côté positif de tout cela, c'est que peut-être on va apprendre quelque chose. Avez-vous appris quelque chose de par les erreurs que vous avez commises? Ça vous est arrivé? Et je crois que des fois on apprend plus par nos erreurs que par nos réussites. N'est-ce pas vrai? C'est quand on se trompe, puis qu'après on prend un temps de réflexion en disant « mais pourquoi est-ce que ça a mal tourné? Pourquoi est-ce que ça n'a pas réussi? Pourquoi ?» Et qu'on analyse la situation. Là, des fois, on apprend beaucoup plus que simplement si on avait entendu quelque chose et puis mécaniquement on fait ça ou on ne fait pas ça. Mais on n'a pas compris le pourquoi et le comment. Mais quand on fait l'expérience nous-mêmes et qu'on voit ça, ça réussit, ça raté, pourquoi? Et Dieu est toujours là. C'est ça qui est merveilleux avec l'amour de Dieu, c'est que même quand on fait une erreur, même quand on se trompe, même quand on désobéit, eh bien Dieu reste accessible. C'est sûr que ça lui fait de la peine, c'est sûr qu'il souffre de cela, mais pas c'est un Dieu d'amour. Et si on tourne nos regards vers lui en disant « Seigneur, j'ai fait une faute, j'ai péché, je me suis trompé, pardonne-moi Seigneur. » Il dit « mais il n'y a pas de problème, viens, je vais t'aider à t'en sortir. » Ça c'est le Dieu que nous servons. C'est pour cela que je crois que nous pouvons dire cet après-midi que nous l'aimons et nous voulons l'aimer toujours plus. Tellement plus la vie se déroule, plus on fait des expériences avec lui, plus on doit l'apprécier, plus on doit l'aimer. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et j'aimerais que chacun, et vous les enfants, les jeunes aussi, bien que vous ayez le désir de mieux connaître le Seigneur Jésus, de mieux connaître Dieu, comme ça disant, mais j'aimerais vivre quelque chose avec lui. Mais c'est possible pour toi, Nathanaël, et pour toi, Lucas, et pour... Benjamin, c'est Benjamin, c'est ça. Et puis, j'ai un petit papier là, je vais tricher, hein. Pardon, excusez-moi, ça c'est Elisa, c'est ça? Élise, voilà, d'accord, je n'ai pas très bien pu lire mon écriture, Élise, voilà, et il y a peut-être d'autres comme ça, mais, et ça c'est, attends un petit instant, Julie, c'est ça? D'accord, Julie, ça commence à venir, voilà, mais c'est quelque chose pour chacun. Donc, ne vous contentez pas de dire, oui, ben, papa m'a dit ceci, ou maman m'a dit ceci, ou le frère Mitchell a dit cela, ou bien ou bien Mélodie a dit ceci, à l'école lui dit mon chou comme ça. C'est après toi, tu dis mais maintenant moi je vais lui parler et lui va me parler et je vais expérimenter quelque chose, on va devenir des amis. Et pour moi ça c'est extraordinaire, lorsque on peut être un enfant, un jeune et puis dire mais quand je parle à Jésus, il m'écoute. Et quand lui me parle, moi je l'écoute. Et puis je m'en porte mieux. Donc l'autosuffisance, pour moi, c'est quelque chose de très négatif. Disons que on doit, je crois, manifester tout le potentiel qui est en nous. Mais le prophète de Dieu a dit ceci, et je crois de tout mon cœur, on a besoin les uns des autres, plus que jamais auparavant. On peut être quelqu'un d'extraordinaire, de merveilleux, plein de talents, mais malgré tout, on n'a qu'une portion de la divinité en nous. Si on a donné notre vie à Jésus-Christ et qu'on est né de nouveau. Mais qui a l'autre portion? Eh bien, c'est quelqu'un d'autre, et je dois l'accepter, lui doit m'accepter, et quand on met en commun ce que nous avons, eh bien, on a plus de Dieu qui est manifesté. C'est pour ça que je suis ici, parce que j'ai besoin de vous. C'est vrai. J'ai besoin de cette portion de Dieu qui est en vous, de ce que Dieu vous a donné. J'en ai besoin, parce que j'ai besoin de Dieu. Et Dieu, qui est esprit, se manifeste dans des corps de chair. Donc, maintenant, je peux dire, « Ah, mais j'ai besoin de Dieu. » Mais comment puis-je dire cela si je vous rejette ? Non, si j'ai besoin de Dieu, je dois dire, mais Seigneur, où es-tu? Montre-moi où tu te caches, parce que Dieu est un Dieu qui se cache derrière un voile. Donc je vois des voiles, c'est-à-dire des corps humains, qui met, est-ce qu'il y aurait quelque chose de Dieu dans la personne dont j'ai besoin? C'est pour ça qu'on parle les uns avec les autres, qu'on s'écoute, qu'on s'ouvre, qu'on se présente. Pourquoi? On cherche à découvrir. Y a-t-il Dieu là caché quelque part? Un Dieu dont on a vraiment besoin pour aller de l'avant? Donc je peux vous dire, eh bien, j'ai déjà été béni pendant ces quelques heures qu'on a passées ensemble, simplement parce que je vois des... Vous savez, Dieu, je dis ceci pour des fois un petit peu faire réfléchir, je crois à un Dieu immuable ou inchangeable, disons immuable, qui change. Je crois à un Dieu immuable, ça veut dire qu'il ne change pas, mais qui change. Vous me direz, mes frères, ça, c'est une contradiction. Est-ce que ton Dieu change ou est-ce qu'il ne change pas? Je dirais, mon Dieu change et mon Dieu ne change pas. Ça vous fait réfléchir? Dans le prophète Malachie, Dieu dit, je suis Dieu et je ne change pas. Est-ce que vous croyez ce passage-là? Le Dieu de la Bible ne change pas. Mais savez-vous pourquoi les gens ont crucifié le Seigneur Jésus, qui était pourtant Emmanuel, Dieu avec nous? C'est parce qu'ils n'ont pas reconnu que c'était Dieu qui était là au milieu d'eux. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reconnu? Parce qu'il avait changé. Mais changé de quoi? De forme. Il ne peut pas changer de nature. Ça, c'est le côté immuable de Dieu. Sa nature ne change pas. Son caractère ne change pas. Sa parole ne change pas. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Mais Dieu, ça c'est ce que la Bible nous montre, du début à la fin, Dieu change de forme. Dieu change d'enveloppe. On pourrait dire, c'est le même produit dans un emballage différent. Ça vous dit quelque chose? Vous allez au magasin, pendant des années, vous achetez toujours le même produit. Et tout de suite, vous le prenez sur le rayon parce qu'il il est dans un certain emballage. Tout à coup, eh bien, le fabricant décide de changer d'emballage et mettre nouveau. Mais en fait, c'est toujours le même produit dedans. Mais parce qu'ils ont changé l'enveloppe extérieure, l'emballage, et on dit, mais vous n'avez plus ce produit-là. Oui, monsieur, il est toujours là. Mais dans un emballage différent. Eh bien, Dieu, c'est la même chose avec lui. C'est ça qui est des fois qui désarçonne les gens parce qu'ils disent, mais Dieu, il a fait ça comme ça, sous cette forme-là. Et puis Dieu peut être juste à côté d'eux et ils ne le reconnaissent pas. Pourtant, c'est le même Dieu, mais il a seulement changé de forme. Dieu était caché dans les prophètes, c'est ce que la Bible nous montre. Et après, Dieu s'est caché dans la plénitude en Jésus-Christ, en Jésus de Nazareth. Et les gens ont dit, mais tu es un imposteur, tu te fais Dieu. Mais il ne s'est pas fait Dieu, il était Dieu. Mais c'était juste la forme extérieure qui avait changé. Et il disait, mais nous avons Moïse. Il faisait toujours référence à la forme que Dieu avait autrefois. Et ils ne reconnaissaient pas la forme que Dieu avait dans leur temps. Mais vous me direz, mais alors, comment savoir si c'est Dieu? Et Frère Branham a dit ceci, qu'on reconnaît Dieu à ses caractéristiques. Parce que les caractéristiques de Dieu ne peuvent jamais changer. Sa nature ne peut pas changer, son amour ne peut pas changer, sa douceur ne peut pas changer, sa sainteté ne peut pas changer, son humilité ne peut pas changer, sa justice ne peut pas changer. Ça, c'est sa nature, c'est une partie de lui, ça ne peut jamais changer. C'est seulement la forme, c'est seulement le masque qui va changer. Et quand on parle de masque, si vous avez lu ou entendu les messages intitulés « Le Dieu dévoilé », ça vous dit quelque chose, « Dieu dévoilé » ou un autre message, « Le Dieu puissant dévoilé devant nous ». Et là, dans ces messages et aussi dans la révélation des sept sceaux, Frère Branham parle de ce changement de masque. Et je pouvais très bien comprendre, oui, c'est vrai, je vois, Dieu change de masque et tout. Mais je n'arrivais pas à m'identifier à ça. Je disais, mais moi, je ne peux pas changer de masque. Je suis François le Picard. Et si j'ai un autre masque, eh bien, je ne suis pas vraiment ce que je suis ou qui je suis. Et je deviens un hypocrite. Et Dieu a dû me parler aussi à ce sujet, me montrer que Dieu a changé de masque et Dieu n'est pas devenu un hypocrite. Vous suivez toujours, hein? La Bible nous montre que Dieu a changé plusieurs fois de masque, c'est-à-dire qu'il s'est présenté sur la terre aux hommes au travers de personnages différents, au travers de Moïse, au travers d'Ésaïe, au travers de David, etc. Chaque fois, il manifestait des caractéristiques divines. Dieu était caché, était voilé derrière eux. Et après, bien sûr, quand il est venu en Jésus-Christ, là, c'était la pleine manifestation de ce Dieu invisible. C'était Dieu devenant visible, Dieu devenant tangible, Dieu devenant matériel. Et s'ils avaient vraiment connu le Dieu de l'Ancien Testament, ils auraient dû dire, mais le voile a changé, le masque a changé, mais les caractéristiques demeurent. C'est donc lui. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu se débarrasser de lui. Ils l'ont crucifié parce qu'ils pensaient rendre service à Dieu en disant, c'est un imposteur, il faut vraiment l'éliminer, cet homme-là. Et en fait, c'était Dieu sous une autre forme. Et si nous ne pouvons pas nous arrêter au voile, maintenant cet après-midi, je vous vois. Hein, je vois chaque personne ici, les uns après les autres, jusqu'au fond, tout là-bas, le frère Eric tout au fond, un petit peu dans l'ombre, mais je te vois quand même aussi. Et puis vous de ce côté, nous nous voyons comme cela, mais c'est juste une enveloppe que je vois. Mais ce que je vois de vous, je vois la sœur ici d'un certain âge, je vois Nathanaël de 10 ans à côté d'elle, ça fait un contraste entre les deux, mais qu'est-ce que je vois de mes yeux naturels? C'est juste, on peut dire un masque, c'est juste une enveloppe, mais ce n'est pas vraiment vous. Savez-vous qu'on ne se voit pas vraiment les uns les autres? Parce que ce qu'on est vraiment, c'est ce qui est caché à l'intérieur. Au niveau de notre âme, de notre esprit, la partie invisible de nous, c'est ce que nous sommes vraiment, notre vraie personnalité, notre vrai moi, c'est ce qui est caché à l'intérieur. Et l'enveloppe extérieure est censée manifester ou exprimer ce que nous sommes à l'intérieur. Eh bien, quand Dieu change de masque, ou a changé de masque, il n'est jamais un hypocrite. Pourquoi? Parce que ce qu'il montre à l'extérieur, peu importe le masque, peu importe l'enveloppe, est toujours le reflet parfait de ce qu'il est à l'intérieur. Donc, il ne peut jamais être un hypocrite. Mais maintenant, le diable aussi change de masque, puisque Paul a dit, il peut se présenter sous la forme d'un ange de lumière. Il peut venir se présenter devant les gens, qui? Le diable, avec une Bible sous le bras. Regardez, moi je suis un homme d'église, je suis un pasteur, je suis un homme religieux. Est-ce que, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, hein? C'est pas parce que je tiens une Bible à la main que forcément je suis un homme authentique, je suis sincère, je suis droit. C'est pour cela, je dis aussi à mon assemblée, j'ai dit, mais nous nous aimons beaucoup les uns les autres, j'ai dit, mais n'ayez pas une confiance aveugle en moi. Je suis un homme et je peux me tromper. Et si je me trompe, eh bien, aimez-moi suffisamment pour me prendre à part et venir m'en parler, pour m'aider. Je ne suis pas infaillible, je ne suis pas une autorité, je ne suis pas un absolu, j'essaie de faire de mon mieux, mais maintenant, j'ai besoin de votre aide aussi. Un pasteur, un berger, est censé protéger son troupeau, ses brebis. Mais savez-vous que les brebis sont aussi là pour protéger le berger? C'est pas simplement être des moutons de panure, vous savez, qui aveuglément, voilà, on suit le berger, voilà, je suis une brebis, je suis. Non. Nous devons être quand même des gens sensés, des gens qui réfléchissons. On a le droit de vérifier ce qu'on nous dit. On a le droit de comparer, on a le droit de s'assurer. Ça ne nuit pas à notre amitié, à notre confiance. C'est simplement une question des fois de vie ou de mort. Donc, le Seigneur Jésus ne peut jamais être un hypocrite. Même le diable est un hypocrite. Il se donne, il se présente sous un bon jour. Mais ce que l'on voit de lui n'est pas le reflet de ce qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il a vu ces gens religieux de son temps, ces pharisiens, l'extérieur était impeccable. C'était des hommes dignes, des gens qui avaient vraiment le comportement qu'il fallait, tout ça, les gens font leur révérence, oh, bonjour, comme ça, tout ça, c'est beaucoup de respect, c'est des hommes saints, c'est des hommes près de Dieu, et tout cela, et tout. Vraiment, ils avaient toutes les apparences d'être de vrais serviteurs de Dieu. Mais Jésus, qui était la parole faite chair, et Hébreux 4.12 nous dit que la parole de Dieu est comme une épée, ça vous le savez, n'est-ce pas, qui va jusqu'à l'intérieur de nous, qui sépare jointures et moelles, et âme et esprit. Et devant cette parole, tout est nu et découvert. Et la parole était là, dans un corps de chair appelé Jésus. Et Jésus leur a dit, vous êtes des hypocrites. Est-ce qu'il l'a dit simplement pour les blesser, pour leur faire du mal? Il leur a dit ça pour les aider. Moi, je crois cela. Jésus n'a pas de méchanceté en lui. Il ne voulait pas simplement essayer de les écraser, de les éliminer. Il a voulu les aider. Et on ne peut être aidé que lorsqu'on accepte la vérité. Et ces hommes-là, la plupart n'ont pas accepté les paroles de Jésus qui étaient pourtant la vérité. Ils ont dit, mais cet homme-là, eh bien, il faut l'éliminer parce qu'il est en train de nous saboter et de nous faire perdre notre dignité devant les gens. Eh bien, il faut se débarrasser de lui le plus vite possible. Mais si l'un de ces pharisiens avait dit, mais c'est vrai que je regarde mon cœur, ça c'est la chose la plus difficile qu'on ait à faire, regarder dans son propre cœur. C'est vrai, je fais tous mes efforts pour avoir une bonne apparence devant les gens. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, mes pensées sont souillées, sont corrompues. Ce que les gens voient de moi n'est pas la réalité. Ils ont dit, Seigneur, ce que tu dis est vrai. Je suis un hypocrite. Pardonne-moi. Change mon cœur. Change mon esprit. Et il y aurait de l'espoir pour eux. Donc, quand Dieu m'a montré cela, eh bien que je pouvais avoir plusieurs masques, plusieurs fonctions, sans être un hypocrite. Je dis, Seigneur, eh bien, aide-moi. Et je vous dis, durant cette dernière année, Dieu m'a tellement aidé dans tellement de domaines. Dieu m'a dit, bien, vous savez, je disais tout à l'heure, pour établir des relations avec quelqu'un, vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous êtes. Or, qui suis-je? Je suis un homme, 59 ans, je viens de Suisse, etc., etc. Voilà. Je m'appelle François Le Picard, je sais quand je suis né, je sais un petit peu qui je suis, d'où je viens, ce que je fais là. Mais maintenant, qu'est-ce que je suis? Bon, ben, disons, par rapport à mon épouse, je suis son mari. Par rapport à mes filles, je suis leur papa. Par rapport à mes petites filles, je suis leur grand-papa. Par rapport à mon église, je suis leur berger, leur pasteur. Par rapport à d'autres personnes, eh bien, je suis l'interprète ou le traducteur des messages de William Branham. C'est comme ça qu'ils me connaissent. Donc, Dieu me montre, bien, tu vois, pour toutes ces personnes-là qui te connaissent, eh bien, ils te connaissent avec un certain masque, c'est-à-dire dans une certaine fonction, dans un certain rôle. Et chacune de ces fonctions, chacun de ces rôles a certaines caractéristiques. Pour mon épouse, mais bon, ça peut-être que j'en parlerai dans une prochaine réunion, j'ai plusieurs fonctions pour elle, comme ça. Mais vous verrez, c'est des choses toutes simples, mais qui sont, pour moi, qui sont intéressantes, parce que ça nous permet de devenir encore plus vrai, plus profond, de quitter notre superficialité. Ça me dit, ben voilà, je gêne tout le monde et puis je vais être gentil avec tout le monde, tout ça. Mais bon, mais si je prends Nathanaël, eh bien, quelle sorte de relation puis-je avoir avec lui? Par rapport à son âge, à ce qu'il est, à qui il est, quelle sorte de relation? Maintenant, c'est pas si je commence à prendre la Bible et puis les choses un peu compliquées de la Bible, le message, même s'il peut dire, bon, ben, j'aime ce frère et tout ça, mais il dira, mais je comprends plus, je suis plus ce qu'il dit, tout ça, pourquoi? Parce que je ne pense pas que dans ces domaines-là, eh bien, il ne peut pas comprendre ce que je dis de cette manière-là. Donc c'est à moi de me mettre à son niveau, à dire, mais maintenant, quand j'avais 10 ans comme lui, qu'est-ce que je pouvais comprendre à l'âge de 10 ans? Donc c'est pas lui à devenir un adulte en 5 minutes et avoir 59 ans, il peut pas, même s'il le veut. Mais c'est à moi de 59 ans à descendre, à me mettre au niveau de Nathanaël et puis de Lucas et de chacun des enfants ici pour essayer de dire, mais quand j'avais leur âge, comment est-ce que je pensais? Comment je réfléchissais? Quelle était ma maturité pour comprendre certaines choses? Le but, c'est maintenant de faire passer un message. N'est-ce pas vrai? Eh bien, on parle beaucoup dans le monde de communication, de télécommunication et tout cela. Et je crois que de toute l'histoire de l'humanité, nous vivons dans un temps où il n'y a pas eu plus de moyens de communiquer les uns avec les autres qu'aujourd'hui. Autrefois, bien, on communiquait par la parole, on parlait avec son entourage, ses voisins. Après, on pouvait écrire maintenant à des gens qui habitaient plus loin, donc on communiquait par les lettres, par les écrits. Ensuite, il y a eu la découverte du téléphone. Et puis là, on a pu commencer à se parler par fil, une certaine distance. Et actuellement, mais on a tous les moyens de communiquer les uns avec les autres. Hein, on a le téléphone, on a les téléphones portables, on a l'Internet, les emails, le chatting et toutes ces choses-là. On a tous ces moyens. Et pourtant, malgré tous les moyens matériels et physiques qu'on a pour communiquer, très souvent on voit que les gens n'arrivent pas à bien communiquer. C'est quoi communiquer? Eh bien, ce n'est pas simplement partager un savoir avec quelqu'un d'autre. C'est pouvoir communiquer, c'est-à-dire transférer une information de votre cœur dans le cœur de l'autre personne. Une vraie communication, c'est un message qui passe d'un cœur à un autre cœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Une vraie communication. On peut parler de toutes sortes de choses, de politique, d'économie, même de foi, de religion, mais ça peut rester très intellectuel. Vous pouvez parler pendant 2 heures de temps, après, bon, vous n'avez rien reçu. Mais quand 2 individus peuvent parler de cœur à cœur, eh bien, il y a quelque chose qui est apporté, qui est transmis, qui fait du bien. Et on a donc tous ces moyens de communication, et pourtant, eh bien, les gens, des fois, arrivent tellement mal à communiquer. Pourquoi s'il y a des couples qui se séparent? Pourquoi s'il y a des familles qui se séparent? Des églises qui se séparent? Des fois, très souvent, c'est un problème de communication. On ne s'est pas bien compris, ou on a mal interprété ce que l'autre personne voulait dire. Comme on dit, eh bien, on se juge soi-même d'après ses intentions et on juge les autres d'après leurs actes. N'est-ce pas vrai? Ah, mais t'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit? Et on juge l'autre personne d'après ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit. Mais quant à soi-même, eh bien, quand on fait ou qu'on dit quelque chose, on n'analyse pas forcément nos actions ou nos paroles. On regarde nos intentions. Mais je ne voulais pas te faire du mal. Je ne voulais pas être méchant avec toi. Ça, sont les intentions. Mais peut-être c'est mal sorti, ça a mal été présenté. Et ça a mal été perçu aussi. Mais le Dieu de la Bible, c'est un expert en communication. Hein? Depuis le jardin d'Éden, eh bien, dès le départ, avec Adam et Ève, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, Dieu a cherché à nous convaincre qu'il nous aime vraiment. Et c'est plus que des paroles. Ça doit être quelque chose qui part du cœur de Dieu juste dans notre cœur. Mais est-ce qu'on dit, mais Seigneur, je suis indigne. Tu as vu tout le mal que j'ai fait, tu as vu mon comportement, tu as vu toutes ces choses, toutes les bêtises que j'ai faites. Et tu m'aimes quand même? Dieu dit, oui, je t'aime quand même. Et je veux que tu le saches. Et toute créature de Dieu, que ce soit des êtres humains ou des animaux, pour se développer harmonieusement, a besoin de se sentir aimé. Vous prenez des plantes même. Eh bien, j'ai entendu dire ceci, que pour que des plantes se développent bien, elles doivent sentir que nous les aimons. Avez-vous déjà entendu ça? Les plantes. Les animaux, que ce soit les animaux domestiques, votre chien, votre chat, etc., ont besoin de sentir qu'on les aime. Mais les êtres humains aussi ont besoin de cela. Je pensais aussi à des enfants dans certains pays qui n'ont pas ou plus de parents, où les parents n'ont pas les moyens de les élever. Ils sont placés en orphelinat. Et là, des personnes charitables eh bien, prennent soin d'eux et leur donnent à manger, leur lavent leurs vêtements, etc. Mais souvent, ces enfants eh bien, ont une souffrance intérieure. Pourtant, on leur donne l'essentiel vital, mais parce qu'il y a peut-être beaucoup d'enfants, ils n'ont pas suffisamment d'amour personnel. Il y a un manque comme cela. Ils ont à manger, ils ont un toit, ils ont le vêtement, mais n'ont pas reçu peut-être assez d'affection pour se développer harmonieusement. On a besoin d'amour, n'est-ce pas vrai? On a besoin de sentir que quelqu'un nous aime. Donc, le Dieu de la Bible, eh bien, c'est pour ça que nous sommes ici cet après-midi. C'est juste qu'on entend encore cela, c'est un message tout simple. Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il veut notre bien, notre bonheur. Et pour que nous soyons heureux, eh bien, il faut être plus comme lui. Il veut que sa nature soit en nous et qu'on voit les choses par ses yeux. Pas par nos yeux, mais par ses yeux. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose de précieux. Je pense que vous êtes aussi comme moi. On aime l'harmonie. Est-ce que vous aimez l'harmonie? L'harmonie entre les gens. Combien aiment l'harmonie? L'harmonie. Il y a une atmosphère harmonieuse ou des relations harmonieuses. Est-ce que vous aimez l'unité? Ça peut être l'unité du couple, l'unité de la famille, l'unité de la communauté. Se sentir un avec les autres. Vous aimez ça, l'unité? Et en tant que prédicateur, eh bien, j'ai prêché sur l'unité du corps de Christ, l'unité de la foi, l'unité de l'esprit, tout ça. Et j'ai prêché, Jésus a prié pour que nous soyons un et tout cela. Et je n'ai pas vu beaucoup, parfois, de résultats positifs. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il faut qu'on soit un. Et on doit être dans l'unité, on doit être dans l'harmonie, on doit être dans la paix. Mais pourquoi ça ne marche pas? Et Dieu a permis que je lise une fois ce que le prophète de Dieu a dit à ce sujet. Ça se trouve dans un message intitulé L'approche pourvue par Dieu pour la communion divine. Justement à Tulsa, dans l'Oklahoma. Et dans ce message, comme dans d'autres messages, il dit, eh bien, dans toute maison, qu'elle soit grande ou petite, eh bien, il y a trois catégories de pièces. Il y a une cuisine ou une salle à manger, il y a un salon et une chambre à coucher. Donc c'est basique. Bon, ça peut être qu'une pièce qui remplit toutes les fonctions, ou ça peut être un château avec, disons, 20 pièces, 20 chambres, mais disons, il y a trois groupes de pièces, de chambres dans la maison. Un endroit où on mange, un endroit où on fraternise, on partage, et puis un endroit où on dort et où certaines choses se passent aussi. Et il dit sur le plan spirituel, c'est la même chose. Eh bien, on écoute la parole de Dieu, donc on mange la parole. Après, il y a des moments de partage, de fraternité. Ça, c'est le salon. Et les uns avec les autres, mais aussi avec le Seigneur Jésus, m'a prédit, mais il y a une troisième chambre. C'est la chambre à coucher. Donc, c'est là où je reprends ce qu'il dit dans ce message. Il dit, la chambre suivante, c'est la chambre à coucher. Quand vous allez dans cette chambre à coucher, alors vous entrez dans une communion et une relation. Vous entrez dans une relation et alors vous avez une communion complète parce que vous ne pouvez pas avoir de communion complète avant d'avoir une relation. Tout le monde sait cela. Je fais une petite pause ici, sans peut-être entrer dans trop de détails, les grandes personnes comprendront. Il y a certaines choses qui se passent au niveau du couple dans la chambre à coucher, qui ne se passent pas dans la cuisine, qui ne se passent pas au salon non plus, au niveau de la relation, au niveau de l'intimité. Et on peut aller à l'église en disant « Ah, j'ai écouté une bonne prédication. Oui, on était à table, on a bien mangé. C'est bon. Dieu m'a parlé. C'est fantastique. » Après, eh bien, j'ai eu un bon moment dans la prière, j'ai parlé au Seigneur, et puis il m'a parlé, j'ai une bonne communion fraternelle, ou une bonne communion avec le Seigneur Jésus. Tout ça, c'est bien, mais il veut encore plus avec nous. Il aimerait nous conduire d'un endroit très intime, un endroit où il n'y a pas le public et tout cela. Il dit, mais maintenant, c'est juste toi et moi. Parce que le Seigneur veut s'unir à nous. Avant que quoi que ce soit ne soit créé, toute chose était en Dieu. Et à un certain moment, Dieu a laissé quelque chose sortir de lui. C'était la parole. Pourquoi? Parce que Dieu voulait avoir des relations, Dieu voulait communier, Dieu voulait s'exprimer, se manifester. Comme Adam, nous l'avons vu hier soir, Adam à un certain moment était seul. Tous les animaux étaient en couple, mais lui, l'homme, était tout seul. Puis après, Dieu a sorti Ève de lui, la partie féminine. Et après, Adam a pu avoir communion avec Ève. Mais qu'était le but de cette communion, de cette relation avec Ève? C'était qu'ils puissent redevenir un. Ils étaient un quand Ève était dans Adam, mais il manquait quelque chose au niveau de la communion et de la relation. Alors Dieu a sorti Ève d'Adam dans un corps séparé. Et maintenant, les deux, par le mariage, par l'union du mariage, devaient redevenir une seule chair. Ce qu'ils étaient déjà avant. Eh bien, pour Dieu, c'est la même chose. Nous étions en Dieu. Paul dit dans les Éphésiens, chapitre 1er, nous étions en lui avant la fondation du monde. Mais pas manifestés dans ses pensées, dans ses attributs. Et après, Dieu a commencé à nous manifester. La parole est sortie. Après, la parole a commencé à créer. Et nous sommes venus à l'existence. Mais quel est le but de tout cela? Eh bien, c'est de tourner de nouveau vers Dieu maintenant pour redevenir un avec lui. Donc, déjà sur la base de ce début de citation, eh bien, j'ai compris que pour avoir la communion, pour avoir l'unité, pour avoir l'harmonie, il y avait une étape intermédiaire que je ne connaissais pas précédemment. Je parlais d'unité, je parlais de devenir un, mais ça ne se fait pas comme ça. Entre jeune homme et une jeune fille, eh bien, lui est là, elle est là, on peut dire, ben voilà, on va être un, mais on ne devient pas un comme ça, ce n'est pas un coup de baguette magique. On peut devenir un, mais l'étape intermédiaire, c'est l'étape relationnelle. Il faut avoir les relations appropriées pour nous permettre de devenir un. S'il n'y a pas ces relations-là, on peut parler d'unité, on peut prêcher là-dessus, on peut faire toutes sortes de choses en parlant d'unité, il n'y aura pas d'unité. Parce qu'au niveau relationnel, ça ne marche pas. Ou disons qu'on n'a pas eu la bonne relation pour conduire à l'unité. Comment est-ce qu'un homme et une femme peuvent avoir un enfant s'il n'y a pas une bonne relation entre eux, une relation intime entre eux? On peut dire, oui, tu es ma femme, tu es mon mari, oui, c'est vrai. Mais s'il manque l'étape relationnelle, il n'y aura jamais, la femme ne va jamais devenir enceinte pour pouvoir ensuite enfanter un enfant qui sera le fruit de ce couple. Vous êtes d'accord avec cela? Vous comprenez? Donc, c'est la même chose avec Dieu, et c'est cela dont Frère Branham parle ici. Il continue en disant ceci, « Écoutez, ainsi en est-il avec l'Église aujourd'hui. Nous avons trop de personnes, trop d'entre elles, qui ont honte d'entrer dans une relation complète avec Dieu pour avoir une vie nouvelle et une nouvelle naissance. Si nous sommes l'épouse de Christ, alors pourquoi ne pouvons-nous pas avoir ou entrer dans une relation? Et alors, toute la honte et la gêne et tout ont disparu loin de nous. Et là aussi, par rapport à ce qu'il dit par ailleurs, eh bien, une jeune femme chrétienne, elle sait qu'elle doit rester pure jusqu'au moment du mariage. Elle ne va pas offrir son corps à n'importe qui. Elle dit non, mon corps est réservé pour le mari que Dieu m'a destiné. C'est ce que Dieu veut pour moi. Donc là, elle va se protéger, elle va garder une distance avec tout son entourage, elle sera gentille, sympathique, mais maintenant elle dira non, ne va pas plus loin, je n'accepte pas cela. Elle se protège, elle se garde en vue de son mariage avec l'homme que Dieu lui a destiné. Maintenant, le mariage se fait, la cérémonie est faite, il y a l'échange des vœux, des promesses, et après maintenant, eh bien, ils deviennent devant Dieu et devant les hommes, mari et femme. Donc jusqu'alors, ils ont eu des bons moments ensemble, ils ont parlé, ils ont fait toutes sortes d'activités. Mais maintenant, parce qu'ils sont mariés et femmes, ils peuvent aller un pas plus loin, entrer dans une relation complète l'un avec l'autre. Et c'est là où, disons, je parle maintenant vraiment d'un jeune homme et d'une fille chrétien, engagé, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui marche dans la sainteté. Eh bien, il y a un moment où maintenant, eh bien, toutes les craintes, toutes les protections qu'on a eues jusqu'à ce moment-là, eh bien, parce qu'on est marié et femme maintenant, on peut mettre ça de côté. Et l'homme et la femme doivent oser se présenter, disons, complètement transparents l'un par rapport à l'autre. Et c'est là où des fois, il peut y avoir un peu de crainte, un peu d'appréhension, en disant, oui, mais j'ai jamais fait ça. Et puis, c'est quelque chose d'inquiétant, parce que c'est nouveau. Mais maintenant, c'est sous le regard de Dieu, c'est béni par Dieu, ça reçoit l'approbation de Dieu. Et là, il y a une intimité que le couple connaît, qu'il n'a jamais connue auparavant. Mais cette intimité, donc cette union, cette communion, elle est précédée d'une relation. C'est une relation particulière. Parce que maintenant, c'est un mari et son épouse qui leur permet d'aller encore plus loin au niveau profond de la relation pour avoir une communion qui les conduit à devenir un entre eux, une seule chair. Donc le prophète parle de ceci et dit, c'est pour ça Seigneur, bien je crois que tu m'as inspiré pour parler un peu sur ces relations, c'est que la relation, c'est-à-dire la corde ou les cordes qui nous unissent à lui ou les uns avec les autres, eh bien c'est juste une étape qui doit conduire à un but. Et ce but, c'est d'être un. Un avec Dieu, un les uns avec les autres dans le corps de Christ. Mais il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de toutes ces choses-là, s'il n'y a pas un passage, comme une passerelle de ceci à cela pour devenir un. Enfin, j'espère que ce que je vous dis n'est pas trop compliqué à suivre. Ça peut jouer jusqu'à maintenant, ça va. Donc, je vais essayer, disons, d'aller un petit peu plus loin. Donc hier soir, nous avons parlé de la relation où Dieu s'est présenté comme le Dieu d'Adam et Ève. Mais juste pour votre information, on est dans un monde où les gens ont des fois de la peine à reconnaître Dieu à sa juste valeur. Ils disent, oui, il y a bien une puissance quelque part, il y a bien un Dieu quelque part. Mais ils ne sont pas vraiment prêts à le connaître, à le découvrir et tout cela. Mais pourtant, l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Un être humain, pour être heureux, pour être épanoui, il a besoin de ses relations avec Dieu. Parce que l'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Et la source de toute chose, c'est Dieu. Donc maintenant, c'est seulement par notre relation intime et personnelle avec Dieu que Dieu peut nous donner ce dont nous avons besoin pour pouvoir donner à notre tour à quelqu'un d'autre. Et il y a un passage de Romains chapitre 1er que vous connaissez certainement bien, mais qui est vraiment frappant. Et on peut juste le regarder rapidement. Que les personnes qui refusent d'avoir une relation personnelle avec ce seul vrai Dieu authentique, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, eh bien, conduit ces gens un dérèglement au niveau de leur comportement. Il y a quelque chose qui ne joue plus. Romains chapitre 1er, et depuis le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ça veut dire que quand on regarde autour de nous la nature, on devrait voir Dieu. Tout nous parle de Dieu. Ils sont donc inexcusables. Certains peuvent dire, mais j'ai jamais été à l'église, j'ai jamais lu la Bible. Et Dieu dit, même si tu n'es jamais allé à l'église, tu n'as jamais lu la Bible, si tu regardes autour de toi la création, ça devrait te parler de moi, le Créateur. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont pas donné sa place. Et j'aimerais aussi vous montrer ceci. Dieu est Dieu. Ça, c'est incontestable. Qu'on le veuille ou non, que je sois d'accord ou pas, Dieu est Dieu. Vous êtes d'accord? Hein? C'est pas moi qui ai fait de lui Dieu, il est Dieu. Maintenant, c'est quoi une idole? Eh bien, c'est un Dieu imaginaire. C'est des hommes qui font de quelque chose leur Dieu. Mais avec le Dieu de la Bible, ce n'est pas ça. Il était Dieu et il s'est manifesté comme Dieu. Et maintenant, nous ne faisons que reconnaître ce qu'il est. Mais ce qu'il attend de nous maintenant, il est ce qu'il est. Ça, on ne peut rien y changer. Mais il s'attend de moi que je puisse dire, Seigneur, je te reconnais comme mon Dieu. C'est pour ça que les paroles de Thomas sont si extraordinaires. Quand il a pu toucher Jésus, il a pu mettre son doigt là dans les marques de clous, tout ça, il a une révélation, mais mon Seigneur, c'est pas tu es Seigneur, non, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Il l'a reconnu, il l'a positionné dans son cœur et dans son esprit comme son Seigneur et son Dieu. Et je crois que c'est ça quelque chose qui est nécessaire, c'est que il est ce qu'il est, il essaie de révéler ce qu'il est, et c'est à nous à dire, mais je reconnais que tu es cela, et je t'accepte dans cette fonction-là, dans ce rôle-là. Et lorsqu'on peut, on va voir ça aussi dans l'Écriture, dans ces prochaines réunions, lorsqu'on reconnaît Dieu dans ce qu'il est, dans tous ses attributs, et qu'on se reconnaît les uns les autres dans ce que l'autre est aussi, eh bien, il y a une bénédiction, il y a une récompense qui est associée à cela. Et ça, c'est quelque chose aussi de merveilleux. Donc là, il dit, ils ne l'ont point glorifié de Dieu, comme Dieu. Donc si on dit qu'il est Dieu, on doit le glorifier. Si on ne le glorifie pas, il manque quelque chose. Et ne l'ont point rendu grâce, c'est-à-dire remercié. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ça, c'est aussi une prophétie concernant la fin des temps. D'après la Bible et le message, c'est qu'à la fin des temps, les gens vont perdre la raison. Ils peuvent être intelligents, ils peuvent avoir une quantité de diplômes, mais en fait, les gens vont raisonner mal, comme des gens insensés. Ça provient du fait qu'on n'a pas reconnu Dieu pour ce qu'il était. Les gens pensent et se vantent d'être sages, d'être intelligents. Oui, mais moi j'ai fait des études, moi j'ai fait la théologie, Et en fait, la Bible prouve qu'ils sont à côté de leurs chaussures. La Bible prouve qu'en fait, ils sont complètement en dehors de la question. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas donné à Dieu sa juste place. Verset 23, ils ont changé la gloire de Dieu. Du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24. Il y a des conséquences à cela. Encore une fois, je disais hier, Dieu ne s'impose pas aux gens. Il ne dit pas, je veux que tu m'acceptes comme Dieu. Tu dois m'adorer. Tu dois faire ceci. Non, non. Il dit, voilà, je suis Dieu. Et il le prouve. Maintenant, est-ce que tu m'acceptes comme Dieu? Ils ont dit, oh, non, non, laisse-moi tranquille. Je veux vivre ma vie. Je n'ai pas besoin de toi. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Vis ta vie. Mais il y a des conséquences à cela. Les conséquences sont celles que nous lisons ici. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ça veut dire quoi? Dieu leur a dit, maintenant tu veux suivre cette voie? Suis-la. C'est l'homme qui choisit sa voie. C'est l'homme qui choisit un certain chemin. Et Dieu dit, tu veux vraiment suivre ce chemin-là? Alors, vas-y, suis-le. Et à quoi ça conduit les êtres humains? À ce que la Bible énumère ici et qu'on voit tous les jours autour de nous. Pourquoi le monde est dans un état si corrompu, si perverti, tout cela? C'est parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Ils n'ont pas voulu accepter d'adorer Dieu, de respecter Dieu, d'écouter Dieu. Et maintenant, Dieu les a livrés à leur choix personnel. Selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous comprenez ce que ça veut dire? Eh bien, plutôt que d'avoir le respect de son corps, qui doit être le temple du Saint-Esprit, qui est dans la sainteté, eh bien les gens aujourd'hui n'ont plus le respect de leur propre corps. Et alors ils ne respectent pas non plus le corps des autres personnes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature chez les femmes. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ce n'est pas Dieu qui les a poussés. Ce n'est pas Dieu qui les a forcés. Il a dit maintenant, vous voulez faire ça? Eh bien, faites-le. Et on voit dans quelles conditions notre monde se trouve aujourd'hui. Car, verset 28, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, c'est-à-dire de l'amour de l'argent, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. N'est-ce pas la description du monde dans lequel nous vivons? Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Donc, Dieu est bon, mais maintenant Dieu n'impose rien. Si les gens ne veulent pas de lui, Dieu dit, alors, suivez votre voie. Mais à cause de cela, eh bien, nous voyons tellement de souffrance, tellement de misère, des gens qui sont mal dans leur peau, des gens qui peut-être ont une façade, peut-être ils sont là, ils rigolent et tout cela, mais quand vous grattez un petit peu, vous voyez une détresse, une misère, un vide intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la source de la vie. Ils ont rejeté la source de l'amour, la source du bonheur, la source de la paix. Ils ont dit, j'ai pas besoin de Dieu. Dieu dit, mais alors il n'y a pas de problème, fais des expériences. Donc nous avons vu ça un petit peu hier soir. Et la dernière chose que nous avons vue hier soir, c'est que Dieu qui nous aime a pu dire maintenant, c'est bien fait pour toi, eh bien, tu as des problèmes, débrouille-toi avec ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Des fois, nous, êtres humains, on dit, bon, mais il n'a pas voulu m'écouter, maintenant qu'il se débrouille, je ne m'occupe plus de cette personne. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous laisse faire nos erreurs, et après, Dieu est toujours là, prêt à nous tendre une main secourable. Mais il va changer de masque. Il va pas seulement dire, ça t'est arrivé parce que tu m'as rejeté comme Dieu. Non, les gens, des fois, ils ne veulent toujours pas de Dieu. Mais Dieu s'abaisse, il se fait tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et Dieu attend le moment où on est au fond du trou. Ça arrive à beaucoup de personnes. Là où plus personne ne peut nous aider, on ne peut pas s'aider soi-même, on est complètement au bout du rouleau, on n'a plus d'aucune ressource, rien du tout. Et c'est là, un peu comme l'enfant prodigue, quand on est là au fond du trou, que tout à coup, on rentre en soi-même, on dit, mais après tout, comment se fait-il que j'en suis arrivé là? Eh bien, c'est de par ma faute. C'est moi qui ai fait de mauvais choix, qui ai suivi mon propre chemin. Et voici la conséquence. Et quand l'être humain accepte de reconnaître que lui s'est trompé, qu'il est arrivé à un certain point de par sa propre faute, et qu'il est au fond du trou, et il avait peut-être avant beaucoup d'amis, beaucoup d'aides, et puis là, tout le monde l'a laissé tomber. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, mais s'il y a un Dieu quelque part, je ne le vois pas, je ne sais pas où il est, mais s'il y a un Dieu quelque part, oh, aide-moi! N'est-ce pas ainsi que ça arrive souvent? Qu'à toute extrémité, hein, dans un dernier réflexe, la personne dit, mais je ne sais pas, peut-être je me suis moqué de lui, peut-être que je l'ai ignoré, mais je ne sais pas. Des gens m'ont dit qu'il y avait un Dieu quelque part, mais s'il y a un Dieu quelque part, qu'il ait pitié de moi. Et qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là? Il vient avec beaucoup d'humilité, très gentiment, sans aucun reproche, il vient dire, tu as besoin de mon aide, voici ma main. Regardez l'attitude du Seigneur Jésus par rapport à Judas. Ce que Judas, un collaborateur du Seigneur Jésus, lui a fait. Il l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Ce n'est pas que Judas voulait faire du mal à Jésus, il voulait juste se mettre un petit peu d'argent dans la poche. Hein? C'était juste l'appât du gain qui a fait que Judas a vendu Jésus aux gens religieux de son temps. Donc ce n'était pas qu'il délibérément il voulait faire du mal à Jésus. Et quand Judas a compris que ça tournait mal pour Jésus, il a rapporté de l'argent. Vous rappelez ce que la Bible dit à ce sujet, n'est-ce pas? Il a eu un regret, mais pas un vrai repentir. Mais maintenant, quand Jésus a vu Judas dans le jardin de Gethsémané, est-ce que Jésus lui a dit, Judas, espèce de faucheton, espèce de vaurien ou de lâche, et le coup tordu que tu m'as fait, après tout le bien que je t'ai fait, notre collaboration de 3 ans et demi, tout ça, tu m'as fait un coup pareil, oh espèce d'hypocrite. Est-ce que Jésus l'a insulté de tous les noms qu'il méritait d'entendre? Non. Quand Judas a donné un baiser à Jésus, Jésus lui a dit, mon ami. Quand je vois ça, il dit, mais Seigneur, il n'y a eu aucun reproche. Pensez à Pierre, un autre collaborateur du Seigneur Jésus. Hein, quand Jésus a dit, vous savez, eh bien, bientôt je serai livré entre les mains des pécheurs et le Fils de l'homme va mourir. Pierre a dit, ah, c'est pas possible, ça ne va jamais t'arriver. En tout cas, tu peux compter sur nous, nous sommes tes gardes-corps. Et puis, on va avec toi dans n'importe quelle situation, en prison, à la mort, n'importe quoi. Moi, je suis Pierre, je suis pas une femmelette maintenant. Moi, je suis un homme, j'ai été élevé à la dure, je suis un pêcheur et j'ai connu l'adversité. Donc maintenant, s'il y a un gars sur qui tu peux compter, c'est moi! Et lui a dit, Pierre, ne te surpasse pas trop. Tu vas me renier. Tu vas faire comme si tu ne me connaissais pas. Pierre dit, mais c'est pas possible. Je ne pourrais jamais faire un coup pareil. Et il l'a fait. L'a-t-il fait? C'est ce que la Bible nous dit. Pierre l'a fait. Et quand ils sont venus pour se saisir du Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémané, la Bible dit que tous les disciples, les 11 qui restaient, ont pris la fuite. Même Jean. Il a même laissé tous ses habits. Il est parti à moitié nu comme cela pour sauver leur peau. Faire ça à son meilleur ami, faire ça à son maître, l'abandonner les moments les plus difficiles, vous trouvez que ça c'est gentil, c'est sympathique? Eh bien, quand Jésus s'est retrouvé dans le prétoire, et puis que là, que Pierre, eh bien lui, il a voulu quand même suivre à distance pour voir un peu ce qui se passait. Et la Bible nous dit cela, que des gens ont dit, mais dis donc, et toi là-bas, on t'a vu avec ce Jésus, tu es l'un d'entre eux. Et qu'à plusieurs reprises, il a dit, mais non, Vous trompez, je n'ai rien à faire avec lui. La Bible dit qu'il a même usé des imprécations. C'est-à-dire qu'il a dû employer un langage qui n'était peut-être pas fantastique à ce moment-là, juste pour se désolidariser de Jésus. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et à un certain moment, la Bible dit que Jésus l'a regardé, a regardé Pierre. Leurs regards se sont croisés. Mais il n'y a eu aucun reproche, aucun blâme, aucune critique. Juste un regard qui ne devait pas être un regard méchant, peut-être un regard de tristesse ou comme cela. Et Pierre a compris. Il est parti pleurer dans un coin et se repentir, mettre sa vie en ordre. Ça, c'est le Jésus que je vois dans la Bible. C'est le Jésus qui est mon modèle. Vous savez, on dit que nous sommes des disciples du Seigneur Jésus. Donc, disciple veut dire qu'on le prend pour notre maître. Mais pourquoi est-ce que Jésus est votre maître? Comment se fait-il que vous et moi, nous voulons être des disciples du Seigneur Jésus? C'est-à-dire que nous voulons suivre le Seigneur Jésus. Eh bien, je crois que dans tous les domaines, c'est ainsi. On ne suit que quelqu'un qu'on admire. On peut être disciple ou on peut être, disons, un fan, comme on dit aujourd'hui, d'un acteur ou d'un joueur de football ou d'un sportif ou de ceci ou ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va suivre cette personne? Pourquoi est-ce qu'on va vivre pour cette personne? Pourquoi? Parce qu'on l'admire. Il y a quelque chose dans cette personne qu'on trouve fantastique, on aimerait être comme elle, et on trouve ça fantastique, on trouve ça beau. Donc, on devient un suiveur ou un disciple ou un fan de telle personne. Eh bien, est-ce que tu es un fan de Jésus-Christ? Un disciple de Jésus-Christ? Mais pourquoi tu es son disciple? Tu dois savoir pourquoi. Tu prends la place de disciple et tu le considères comme ton maître. C'est parce que tu vois en lui l'homme que tu voudrais être. Un être que tu admires. Tu dis, mais dans telle situation, comment il agit, comment il réagit, c'est comme ça que je voudrais être. Et sa vie, et son comportement, et ses actions, et ses paroles, son silence. Oh, mais ça, c'est fantastique. Il est extraordinaire, cet homme-là. Et parce qu'on l'admire, voilà pourquoi on veut le suivre. Et Jésus a dit, tout disciple accompli, c'est-à-dire arrivé à maturité, sera comme son maître. Ça, c'est sa promesse. Donc, ne voulons-nous pas être des disciples du Seigneur Jésus dans le but de devenir un jour comme lui? Mais pour ça, il faut vraiment l'admirer. C'est pour ça que je vous demande de regarder Jésus. On parle de relation. Mais prenez votre Bible. Depuis la Genèse à l'Apocalypse, ça ne parle que de relation. La relation entre Dieu et les anges. La relation entre Dieu et Lucifer. La relation entre Dieu et Satan. La relation entre Adam et Ève, la relation entre Ève et le serpent, la relation entre Cain et Abel, la relation entre Jacob et Ésaü, la relation entre David et le roi Saül. Relation, relation, relation. La relation entre Jésus et Pierre, la relation entre Jésus et Judas, la relation entre Jésus et Pilate, la relation entre Jésus et les pharisiens. Amen. C'est relation, relation, relation. La relation entre les disciples entre eux, la relation entre Pierre et Paul, la relation entre Pierre et Barnabas, ou entre Paul et Barnabas. Ce ne sont que des relations, toutes des relations qui peuvent être bonnes ou mauvaises. C'est pour ça que je crois que Jésus est le modèle parfait. Donc on a dit ceci. J'essaie de regarder un petit peu l'heure aussi, mais on va essayer de prendre encore cela, parce qu'il y a beaucoup de territoire à conquérir ensemble. Mais d'habitude, vous savez, je vais d'une façon beaucoup plus ordonnée. Déjà, bon, j'ai une grande chaire, donc une grande place où je peux poser toutes mes notes, je peux tourner les pages et tout cela. Je connais le sujet, mais des fois, juste pour avoir une suite dans mes idées, mais là, bon, vous avez vu, tout est tombé par terre. Donc, ça ne va pas tout à fait comme je le voudrais, mais je vous parle avec mon cœur. Simplement, essayez de glaner quelque chose ici au vol, comme ça, si ça fait tilt, hop, vous l'attrapez. Amen. Peut-être que je dis bien des choses, peut-être qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait comme vous le voudriez, mais il y a peut-être certaines choses qui disent, ah, mais ça, il y a du bon sens là-dedans. Donc là, eh bien, quand on est au fond du trou, Dieu se fait tout petit et il nous propose son aide. On peut la rejeter, mais il ne l'impose pas, il propose son aide. Et on parlait hier soir de l'agneau. Et la Bible parle de l'agneau de Dieu, de l'agneau de sacrifice et tout cela. Et je peux vous dire cet après-midi, je suis tellement reconnaissant en tant que croyant d'avoir mon agneau. Le prophète de Dieu a dit ceci, un sacrifice parfait nous rend parfaits. Frère François, est-ce que tu es parfait? Je dis, ah non, je suis plein de défauts, je suis loin d'être parfait, mais j'ai un agneau parfait, Jésus-Christ. Et parce que maintenant je m'identifie à mon agneau, c'est-à-dire comme dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un avait fait une faute, commis un péché, il devait apporter un agneau au temple. Et maintenant, il devait poser ses mains sur la tête de l'agneau au moment où on lui tranchait la gorge pour le sacrifier. Et là, l'adorateur qui était un pécheur, eh bien, était là, participant à la mort de son agneau. L'agneau mourait en quelque sorte dans ses bras, en sachant, cet agneau meurt à ma place. Si maintenant la colère de Dieu ne tombe pas sur moi, c'est parce que l'agneau a pris ma place pour couvrir mon péché. Et Frère Branham a dit ceci, maintenant nous avons l'agneau parfait, qui n'est pas un animal, qui est Dieu lui-même dans un corps de chair. Et maintenant je ne peux pas venir devant Dieu dire, Seigneur, je suis François, tu vois comme je suis bien, je suis quelqu'un de correct, d'honnête et tout ça, Seigneur, bon ben, tu dois reconnaître qui je suis, me donner ceci et donner cela. J'ai aucune chance. Je me connais assez pour savoir, Dieu est trop saint pour que je puisse entrer comme ça dans sa présence. Non, non. Regardez même, le prophète Ésaïe, quand il a vu Dieu dans le temple, le prophète Ésaïe, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, j'ai vu Dieu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures et je vis au milieu d'un peuple impur. Il sentait ça, son incapacité, son indignité, sa petitesse. Et c'est pour ça qu'un séraphin a pris des charbons ardents sur l'autel et nous touchait les lèvres d'Ésaïe en disant « Maintenant tu es pur ». Et après Ésaïe, à cause de l'intervention divine maintenant, « Seigneur, envoie-moi, je suis à ta disposition ». Donc aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai fait. Mais je sais une chose, sans Jésus-Christ, l'agneau parfait, j'ai aucune chance. Mes bonnes œuvres, mes mérites, mes capacités, ça ne vaut rien du tout. Je ne peux pas obtenir par cela la faveur de Dieu. Mais tout ce que je peux faire, je peux dire, Seigneur, je me suis identifié à Jésus-Christ, mon agneau, un agneau parfait, et lui a été agréé, parce que lui est parfait. Et maintenant, Dieu me voit comme Dieu vous voit, si vous êtes identifié à Christ, au travers d'un sacrifice parfait. Et je crois à ma perfection maintenant même, à travers Jésus-Christ. J'ai une perfection que Dieu m'a donnée en Jésus-Christ. Mais sans Jésus-Christ, indépendamment de lui, j'ai aucune chance. Je suis un être imparfait. Ça se voit tous les jours. Mais maintenant que je suis uni à Christ et je suis caché en Christ, eh bien, Dieu ne me voit pas. Moi, François le Picard, il voit Jésus. Et si Jésus est parfait, eh bien, il me voit parfait. Si Jésus est saint, il me voit saint. La Bible dit, il a été fait péché pour nous afin que nous puissions devenir justice de Dieu. Donc maintenant, il me voit juste au travers de Christ. Frères et sœurs, je suis heureux en tant qu'homme, et c'est sincère, de connaître Jésus comme mon agneau. Si le diable vient en disant « François !» avec un doigt accusateur, je dis « C'est vrai, j'ai fait une faute, c'est vrai que je ne suis pas parfait. » Mais maintenant, je suis identifié avec mon agneau. Et mon agneau est parfait, et grâce à mon agneau, j'obtiens la faveur de Dieu à cause de mon agneau. Je suis heureux, frères et sœurs, parce que je n'ai pas peur d'entrer dans la présence de Dieu, pas avec ma propre justice, mais avec la justice de mon agneau, Jésus-Christ. Donc, je veux maintenir à tout prix cette relation-là. Comme la Bible dit, mais personne n'est digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, de prendre le livre scellé de sept sceaux et d'en briser les sceaux. Personne n'est digne. Et Jean a pleuré en disant, mais si personne n'est digne, on est tous fichus, on est tous perdus. Aucune rédemption possible. Et il a entendu une voix en disant, Jean, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Judas a vaincu pour prendre le livre en rompre les sceaux. Et Jean, où est ce lion? Il regarde tout autour de lui. Il n'y avait pas de lion. Le lion a vaincu. Il regarde et pas de lion. Mais qu'est-ce qu'il voit? Un agneau comme immolé, ensanglanté. Et l'agneau était digne de prendre ce livre de la rédemption, d'en rompre les sceaux et de révéler le nom des élus de Dieu qui étaient mentionnés dans ce livre-là. Un seul était parfait, l'agneau de Dieu. Et je dis, oh Seigneur, c'est ma seule chance, c'est de croire à cet agneau, de m'identifier à cet agneau. Et quand je vois Regardez ceci. Dieu voulait maintenant vaincre le diable. Dieu aurait pu, parce qu'il est Dieu, venir dans Satan. Je t'écrase sous mes pieds. Par sa puissance, par son autorité, il aurait pu écraser Satan, il aurait pu anéantir Satan et tout cela. Il aurait pu venir comme un lion vraiment sous cette forme-là pour vaincre le diable avec sa puissance et tout cela. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Pour vaincre le diable et le péché et la mort et la maladie et toutes ces choses, Dieu a pris la forme d'un agneau. Frères et sœurs, est-ce que ça n'a pas l'air ridicule aux yeux des hommes et tout cela? Vous voulez vaincre un ennemi fort et vous venez sous la forme d'un animal inoffensif qui ne fait peur à personne, qui n'est pas agressif, qui n'est pas méchant, qui n'a rien, qui n'a pas de griffes ou de dents comme ça qui lui permettent de faire du mal. Un petit agneau. Et quand le diable a vu cet agneau, il a dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire qui vient là? Un peu comme Goliath, quand il a vu le petit David arriver sur le champ de bataille, il a dit, mais vous vous moquez de moi? Je vous ai demandé un homme, pas un gamin. Envoyez-moi un homme pour se battre contre moi. Et vous m'envoyez un petit gamin, un petit adolescent comme ça pour... Vous vous moquez de moi, vous me prenez pourquoi? Mais Goliath ne savait pas que dans ce petit garçon qui était là sur le champ de bataille, il y avait un homme là-dedans. Un vrai, un homme de foi. Quelqu'un qui connaissait son Dieu. Un garçon qui avait pu affronter le lion, qui avait pu affronter l'ours et qui avait remporté la victoire parce qu'il se confiait en Dieu. Ça, extérieurement, Goliath ne l'a pas reconnu. Mais la Bible dit, Paul dit, il a plu à Dieu de confondre les choses fortes du monde par les choses faibles, les choses sages par les choses folles et tout cela. Dieu fait des choses comme cela. Il s'est glorifié dans un petit David qui lui fait confiance. Et maintenant, pour vaincre le diable, il a pris la nature d'un agneau. C'est pour ça que ma vie est influencée par cela, frères et sœurs. Vous me dites, oh mais frère, vous avez l'air humble et tout cela, mais je vais avoir des airs. Non, je vais m'imprégner de cette nature divine pour dire, Seigneur, il y a des victoires à remporter. Le diable doit être vaincu et tout cela, mais soit je peux l'affronter en disant, hé, je suis ceci, je suis cela. Alors je peux faire comme Jésus, je me fais tout petit. Et le diable se moque de moi, mais t'es rien du tout, toi, tu me fais pas peur et tout cela. Mais quand on ne fait pas peur à l'ennemi, c'est là où l'ennemi relâche son attention. C'est vrai. Quand on est peur, on est sur la défensive. Mais quand on n'a plus peur, on n'est plus sur la défensive. Et Dieu, sous la forme de l'agneau, humble, petit, humble, tout ça, tout petit, il a pu s'approcher tout près du diable. Tout près. Et le diable n'avait pas peur. Et au dernier moment, hop, il l'a eu parce qu'il a donné sa vie. Et c'était trop tard. La mort a été vaincue. Le péché était vaincu. Sous quelle forme? Par un agneau. Et j'ai dit, Seigneur, il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de mauvais esprits, le diable est partout comme cela. C'est pas pour peindre le diable sur la muraille, mais on sait que le diable, il a peu de temps, puis vraiment, il rue dans les brancards, il cherche vraiment à faire du mal. Mais je sais une chose, si je veux vaincre le diable dans ma vie et pour aider les gens autour de moi, je dois devenir le plus petit possible, le plus humble possible, et le diable, il ne saura pas quoi faire. Vous savez, quand vous avez un ennemi ou un adversaire qui est plus grand, plus fort que vous, soit vous dites, bon ben, il est plus grand que moi, mais j'ai quand même essayé de lui porter quelques bons coups. Quand vous avez un adversaire maintenant sur votre niveau, c'est votre rival, et là vous dites, maintenant je vais l'affronter, on va voir lequel des deux va gagner. Mais quand au départ, vous avez un adversaire qui se fait tout petit devant vous et qui ne montre aucun signe d'agressivité, il n'y a pas de combat. Nous avions une chienne, il y a bien longtemps en arrière, elle avait 8 ou 9 ans, mais elle avait une nature douce, c'était presque une chienne chrétienne. Eh bien, en compagnie d'autres chiens, elle ne cherchait pas la confrontation, elle se couchait par terre et se mettait sur le dos. En position défavorable, vous dire, je ne cherche pas le combat, tu peux me sauter dessus, tu peux m'agresser, mais moi, je ne veux pas me battre contre toi. Eh bien, c'est comme ça qu'elle évitait tous les problèmes, tous les combats, toutes les confrontations. Pourquoi? Dès le départ, elle disait, je ne veux pas me battre, comme ça. Et c'est comme ça que Dieu a vaincu le diable sous la forme d'un agneau. Mais dans cet agneau, il y avait la nature du lion de la tribu Juda, qui était solide, qui était forte et tout cela. Mais la présentation était celle d'un agneau. C'est pour ça que j'aime l'exemple du Seigneur Jésus. Il est le supérieur, l'être le plus suprême, le plus extraordinaire, mais il s'abaisse, il s'abaisse, il s'abaisse. Et c'est comme ça qu'il a réussi à gagner notre cœur, votre cœur, mon cœur. c'est en étant tellement humble, tellement petit, tellement d'apparence inoffensive qu'on a dit, mais il ne peut pas me faire du mal, donc pourquoi est-ce que je le rejetterais? Et c'est depuis tout en bas, en tant que serviteur, en tant qu'agneau, qu'il a regagné notre confiance et qu'il essaie maintenant de reconstruire ses relations. À quelle heure est le repas du soir, le souper? 19h. Waouh, on a encore beaucoup de temps alors. Oh là là. Est-ce que je peux vous prendre une ou deux relations, peut-être, comme ça? Enfin, c'est le pasteur maintenant qui décide, je suis à votre disposition. Et encore un petit moment, frère Michel. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Vous connaissez ce passage-là. On pourrait prendre la Bible, tout ça, mais ça prend du temps, mais vous connaissez le passage. Eh bien, la relation d'un maître avec son serviteur est différente de la relation d'un ami avec son ami. N'est-ce pas vrai? Et maintenant, Jésus a dit, je vous appelle mes amis. Parce qu'un ami donne sa vie pour ses amis. Et je vous ai dit tout ce que le Père m'a montré. Donc, une relation d'ami, c'est une relation d'ami, d'intimité. Quand on a un vrai ami, eh bien, on devient ouvert avec lui. On montre ce qu'on est. Le bon est peut-être le moins bon, parce que c'est un ami, on a confiance en lui. Et on ouvre son cœur. Mais un ami, même s'il n'est pas d'accord avec nous, il ne va pas prendre autorité sur nous. Parce que là, il change de fonction. Un ami ira, bon, ben oui. Et il écoute. Un ami a une écoute. Il écoute ce que l'autre lui dit, même s'il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de partager avec quelqu'un. On a besoin d'avoir des fois une table de résonance. Des fois, on ne sait pas très bien où on est, on a la confusion dans ses pensées, mais quand on peut parler avec quelqu'un, des fois, ça nous permet de voir plus clair dans nos pensées. On a besoin d'une écoute, n'est-ce pas vrai? On a besoin d'un frère, d'une sœur, d'un ami, de quelqu'un qui nous écoute. Ça nous aide, puis après peut-être d'un conseil, mais savez-vous faire la différence entre un conseil et un ordre? Un ordre, ça ne se discute pas. C'est un commandement, tu obéis. Tu n'as pas le choix. Mais un conseil, comme on dit, c'est un conseil gratuit. Tu peux le suivre ou bien le laisser de côté. Mais vous vous souvenez de ce passage dans Ésaïe chapitre 9, en parlant de la venue du Seigneur Jésus, on l'appellera conseiller. Donc, ça c'est aussi un masque qu'il prend, ou disons une fonction qu'il prend. Il aimerait être notre conseiller. Mais si Jésus est ton conseiller, ça ne veut pas dire qu'il t'impose quelque chose. Il te dit simplement, parce qu'il a beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, dire, mais simplement, si j'étais à ta place, eh bien, je ferais plutôt les choses comme ça. Juste pour nous faire réfléchir. Et c'est à nous après à dire, mais tu as raison, je vais suivre ton conseil. Mais il n'y a aucune contrainte, aucune pression. Eh bien, si on prend un ami, je crois qu'on l'a vu hier soir, mais à quel niveau mettez-vous un ami, quel qu'il soit? Et égalité, c'est très bien. Donc c'était, j'ai déjà oublié ton prénom, bouge pas. C'était Benjamin? Non, c'est ça? Oui, Benjamin. Extra, ça commence à venir. Donc maintenant, l'ami, il est là, à un niveau d'égalité. Donc c'est spécial cette relation-là. Ça veut dire qu'il n'est pas supérieur à nous, il est simplement sur le même plan que nous. Et avez-vous lu dans l'épître de Jacques, où il est écrit, en parlant d'Abraham, Abraham, l'ami de Dieu. Vous vous souvenez de cela? Abraham, l'ami de Dieu. Eh bien, si on se reporte au livre de la Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moment où la Bible dit que Dieu est descendu sous une forme humaine, accompagné aussi de deux anges, pour venir voir ce qui se passait à Sodome et Gomorre. Il dit, mais il y a un bruit, il y a vraiment quelque chose qui se passe là-bas, je vais aller voir ce qui se passe. Et Dieu ne supporte pas le péché, ne supporte pas l'immoralité ou la perversion, toutes ces choses. Et Dieu a dit maintenant, les habitants de Sodome et Gomorre, eh bien, ils vont devoir porter la conséquence de leur péché. Parce que Dieu est un Dieu juste aussi, un Dieu de sainteté. Il est patient, il est bon, il est miséricordieux, mais aussi juste. Il y a un moment où on peut aller trop loin avec Dieu. On peut franchir la ligne de démarcation, la frontière entre la grâce et le jugement. Et rappelez-vous que les gens de Sodome et Gomorre avaient déjà eu l'occasion de connaître la bonté de Dieu. Ils avaient été faits prisonniers, Dieu a envoyé Abraham et ses serviteurs pour aller les récupérer, les faire revenir et tout cela. Donc ils avaient même Lot au milieu d'eux qui croyait en Dieu. Donc ils auraient pu s'intéressaient à Dieu, mais ils retournaient chaque fois dans le même péché et tout. Et Dieu a dit, maintenant, trop c'est trop, et bien ils vont porter la conséquence de leurs actes. Ils vont devoir périr pour cela. Mais alors, avant d'exécuter son dessein, Dieu s'est souvenu qu'il avait un ami sur la terre, il s'appelait Abraham. Et avant d'aller vers Sodome et Gomorre pour détruire ces villes, Dieu a fait un petit crochet vers Abraham. Bon, je vais prendre les gens qui sont devant, donc je vais reprendre Nathanaël comme ça. Mais j'aimerais le faire avec chacun d'entre vous. Et Dieu, eh bien, il est venu là trouver son ami Abraham. Et ils étaient là face à face, Dieu et Abraham. Ce n'était pas Dieu disant, « Abraham, je suis ton Dieu. Hein? » Ça, c'est une autre relation. Et Abraham dit, c'est tout petit, « Oui, oui Seigneur, amen, oui Seigneur, d'accord. » Dieu s'est abaissé. Rappelez-vous, pour venir au niveau amitié, il a dû descendre de la supériorité à l'égalité. Donc, visualisez cela. Quand Dieu est venu vers Abraham, Dieu s'est abaissé au niveau d'Abraham. Hein? Et il a commencé à dire à Abraham, « Comment ça va ? Ça va, Abraham ? Oui ? La main droite, voilà, c'est bien. Comment s'est passée ta journée ? Ça va ? Oui ? Tu es en forme ? Tu es en bonne santé ? Ça va bien ?
Oui.
Comme ça, donc deux amis qui commencent à avoir un petit échange l'un avec l'autre et tout cela. Puis Dieu dit à Abraham, « Abraham, je vais te dire ce que je vais faire. » C'est la caractéristique d'un ami. Il parle de ses projets à son ami. Il ne garde pas tout pour lui. Il y a une relation de confiance et il dit, mais écoute, je projette de faire telle chose. Donc il lui dit, voilà, Abraham, j'ai entendu le bruit qui venait de Sodome et Gomorre, il y a des choses terribles qui se passent là-bas, je vais détruire ces villes. S'il y avait une autre relation, Abraham pouvait dire, oui Seigneur, d'accord Seigneur, fais comme tu l'entends Seigneur. Mais la Bible nous dit qu'Abraham a pris la parole, il a apporté des arguments maintenant. Et tu te souviens ce qu'Abraham a dit à Dieu ?
Non.
Est-ce qu'un autre enfant se souvient ? Benjamin, tu te souviens ? Dans, je ne sais pas si c'est Genèse 18 ou quelque chose comme ça. Non ? Aucun, et peut-être toi. Tu te souviens peut-être de ce qu'Abraham a dit à Dieu ? Tu te souviens, non ? Écoutez, je ne veux pas vous embarrasser. Juste, peut-être ça vous reviendra. Abraham a dit à Dieu, mais dis donc, je sais que tu es un Dieu juste. S'il y avait 50 justes là-bas, tu te souviens, les 50 justes, hein? On pourrait peut-être le lire, mais enfin, on pourrait le lire peut-être de vous-même, comme ça. Abraham a osé, lui un homme, en face de Dieu, Dieu dans un corps humain. Abraham a osé dire à Dieu, dis donc, mais je sais que tu es un Dieu juste, tu ne fais pas périr le juste avec le méchant. S'il y avait 50 justes, il y a peut-être des centaines, des milliers d'habitants, mais s'il y avait 50 justes, est-ce que tu détruirais ces villes ? Et Dieu dit, ben, bien sûr que non. S'il y a 50 justes, je les épargnerai. Abraham, bon, d'accord, d'accord, oui. S'il y avait 45 justes, il commence à descendre. Tu dis, s'il y en a 45, je ne les détruirai pas. Ah, d'accord, ok, d'accord. Et s'il y en avait 40 ? Et s'il y en avait 30 ? Et s'il y en avait 20 ? Et s'il y en avait 10 ? Il est descendu toujours plus et Dieu a dit, s'il n'y en a même que 10, je ne détruirai pas ces villes. Pensez à cela, la relation d'amitié, où Dieu se met à notre niveau et commence à avoir un échange comme ça. Dieu dit, voilà ce que j'aimerais faire. Et Abraham a le courage, la hardiesse de dire à Dieu, mais dis donc, est-ce que tu as bien réfléchi ? Est-ce que tu as bien regardé la situation ? Et s'il y avait des justes, est-ce que tu as anéanti tout le monde, le juste, le bon et le mauvais, tout ça ? Dieu dit, mais bien sûr que non. Je ne vais pas faire périr le juste avec l'injuste. Qu'un homme ose dire à Dieu, disons, d'évaluer la situation, est-ce que vraiment il a regardé tout ce qui était en ligne de compte et tout cela ? Seul un ami peut parler comme ça avec son ami. Vous comprenez ce que je dis ? Non ? Si c'était juste la relation... Dieu est l'adorateur ou le Seigneur et puis le disciple et tout cela, bon ben là on ne met jamais en question, on dit Seigneur tout ce que tu fais est parfait, tu sais ce que tu fais, Seigneur j'ai plus qu'à dire Amen. Mais Dieu s'abaisse, parce que Dieu veut beaucoup de relations avec nous, bien différentes les unes des autres. Et quand Dieu, eh bien, s'abaisse à notre niveau et commence à discuter avec nous, et qu'il nous écoute et qu'il tient compte de ce que nous pouvons lui dire. Je vous donne un autre exemple, combien connaissent le livre de Job dans la Bible ? Job, ça vous dit quelque chose, livre de Job ? Et on sait tous les malheurs, tous les problèmes que Job a traversés, toutes ces déceptions, ce découragement, tout cela. Et vers la fin du livre de Job, enfin j'ai tous les passages, mais juste comme ça, spontanément, il y a un moment où Job est au fond du trou, personne ne le comprenait, tout le monde le critiquait, lui-même qui n'avait pas une Bible à disposition pour avoir des points de repère, il dit mais c'est pas possible, pourtant j'essaie de plaire à Dieu, je vais faire les sacrifices, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et puis tous ces malheurs qui m'arrivent, Job était complètement décontenancé, c'est plus et tout ça. Et à un certain moment, il y a Dieu qui lui parle, il dit Job, lève-toi. Saint-Terrain, ça veut dire tu remets tes habits comme il faut, il est à moitié vautré par terre, complètement au fond du trou, de toute façon, déprimé, découragé, il maudissait le jour de sa naissance, c'est fini, de toute façon, j'y comprends plus rien. Et Dieu dit, Job, qui c'est qui me parle? Job, allez, lève-toi maintenant. Tu mets ta cravate à l'heure, tu resserres ta ceinture, il faut que tu sois présentable, Job. On va parler l'un avec l'autre, d'homme à homme. Et Dieu dit à Job, Job, je vais te poser des questions et c'est toi qui vas me répondre. Ce n'était pas le Dieu qui disait, Job fait ceci, Job ne fait pas cela. Ça, c'est une autre relation. La Bible nous montre, les chapitres, je crois, 30 et quelque chose, ou 40, où Dieu dit à Job, moi, je vais te poser des questions, c'est toi qui vas m'enseigner, c'est toi qui vas me répondre. Il n'y a que des amis qui peuvent parler comme cela. Vous voyez la chose? Et pour ceux d'entre vous qui lisaient le message de Frère Branham, qui écoutaient ces messages enregistrés, eh bien, des dizaines, même quelques centaines de fois, la première chose que Frère Branham disait quand il venait à la chair, qu'est-ce qu'il disait? Pardon? Oui, mais encore autre chose. Il disait souvent, bonsoir mes amis, ou bonjour mes amis. Vous me direz, ah mais c'est spécial, c'est sympathique, comme ça il nous appelle ses amis. Mais ça veut dire quelque chose pour moi. C'est qu'il y avait en face de nous un homme de Dieu, un prophète de Dieu, qui allait être le canal que Dieu allait utiliser pour nous révéler le secret de Dieu. Selon Amos 3,7, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et là, c'était un prophète majeur qui était là sur la terre. Et Dieu voulait parler à son peuple. Donc Dieu ne va pas utiliser un pasteur, un évangéliste, il va utiliser le canal qu'il a choisi pour cela. Et pour nous montrer que Dieu voulait maintenant nous parler de cœur à cœur, disons d'ami à ami. C'est comme ça que je le comprends. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je le ressens. Je crois qu'aucune parole n'est vaine. Bonsoir mes amis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous dire maintenant ce que Dieu m'a montré. Je vais vous transmettre le secret de Dieu pour que vous compreniez ce qui arrive dans votre temps, dans votre contexte, dans votre environnement et tout ça. Vous compreniez l'accomplissement des prophéties et tout cela. Je vous parle comme un des amis. Si vous n'étiez pas mes amis, je ne vous dirais pas ces choses. Je vous laisserai patauger, mais vous êtes mes amis. Je vais vous parler maintenant d'amis à amis. Et c'est pour ça que j'aime tellement le message que Dieu nous a donné par ce prophète, parce que au travers de ce message, j'ai vraiment l'impression de connaître la pensée de Dieu, le secret de Dieu pour le temps dans lequel je vis. Certains diront, ah oui, Branham, tout ça, oui, c'est un prophète, oui, bon, Dieu était avec lui, il a fait des grandes choses, mais écoutez, ça fait des dizaines d'années qu'il est mort, maintenant, n'est-il pas mort en 65, on est en 2010, maintenant il faut quelque chose de frais, il faut une nouvelle inspiration, il faut quelque chose comme ça. Maintenant, on a des hommes aujourd'hui, on a des prophètes aujourd'hui, on a des hommes inspirés, on a, plusieurs m'ont parlé comme cela, à l'extérieur du message, ou bien même dans le message, oui, mais maintenant, on a tel frère, ça c'est un grand ministère mondial, etc. Je dis, bon, je respecte chacun et chacune et tout cela, mais je dis, mais n'oubliez pas ceci, le message de William Branham. Ce qu'il a dit, ce n'était pas juste pour les années 50 ou les années 60, c'était un message prophétique. Certains disent, oh la Bible, mais c'est un livre ancien, c'est un livre historique, maintenant on a besoin de quelque chose de plus intéressant, de plus actuel, de plus adapté. Oui, mais la Bible, ce n'est pas seulement un livre d'histoire. La Bible, qui est la parole de Dieu, est un livre prophétique. Vous ouvrez la Bible avec la révélation de Dieu et vous lisez des choses qui sont plus actuelles que ce que vous lisez dans les journaux que vous pouvez acheter. C'est un livre prophétique, c'est-à-dire un livre qui annonce à l'avance ce qui va arriver. On voit maintenant ce qui se passe dans le monde par rapport à ces éruptions volcaniques, à ces tremblements de terre et toutes ces choses-là. Vous savez comme moi que tout ça, c'était annoncé dans la Bible. Ce n'est pas nouveau. Les gens disent, mais qu'est-ce qui arrive? cette dernière éruption avec ce volcan en Islande, par exemple. J'ai apprécié ce que j'ai entendu à la radio suisse romande. Une présentatrice disait ceci, nous avons reçu une leçon d'humilité. Pensez à cela. Nos chefs de gouvernement, ils devaient aller en Pologne, à gauche, à droite, prendre leur avion, tout le monde était bloqué. Tout le monde a la même enseigne. Soit on allait à pied, soit on allait en voiture, soit on allait en train, c'était la gabegie de partout. Plus personne n'osait voler. Et nous sommes tellement forts, tellement grands, tellement scientifiques, tellement intelligents, et tout le monde était à plat. On ne sait plus quoi faire, tout le monde était bloqué de partout dans le monde, même jusqu'en Afrique, où il n'y avait pas eu le nuage. Même là-bas, les vols ne pouvaient plus circuler pour venir en Europe. Des gens que je connais ont dû rester plusieurs jours comme ça, bloqués quelque part. Notre faiblesse, et pourtant on se croit si fort. Il suffit qu'un volcan crache un petit peu en l'air, et tout un bout de la terre est complètement paralysé tout à coup. Ne sommes-nous pas vraiment petits devant Dieu ? N'est-ce pas ? Donc, Dieu qui parle à son ami. Et personnellement, je suis tellement reconnaissant que déjà depuis jeune garçon, un peu l'âge de ces garçons ici, eh bien, Jésus est devenu mon ami. Je peux tout lui dire, et même s'il n'est pas d'accord avec moi, parce que des fois je dis des bêtises, mais il m'écoute. Et il ne rompt pas son amitié, simplement parce que des fois je suis complètement à côté de la plaque. Non, non, il veut être mon ami, il m'écoute, il veut me comprendre. Et maintenant, moi, je l'écoute aussi, j'ai confiance en lui. Il y a une relation de confiance avec lui. Et ça, je crois que chacun d'entre nous a besoin d'avoir un ou plusieurs vrais amis. Déjà, premièrement, le Seigneur Jésus. On peut tout lui dire et tout ça, il nous écoute, il est patient avec nous. Mais on a aussi besoin d'avoir des vrais amis entre nous. On peut être frères et sœurs en Christ, ça c'est une forme de relation. On est frères et sœurs parce qu'on se réclame d'un même Père céleste. Mais maintenant, c'est beau aussi quand on peut être en plus amis. Amis en Christ. Donc là, c'est encore une autre relation entre nous. Et je pense que vous avez cela aussi, mais ça c'est aussi quelque chose de précieux d'avoir cela. Et on peut parler de ça aussi, enfin, dans d'autres domaines, au niveau du couple ou de la famille. Même au niveau de la famille, eh bien, le papa peut être le papa. La maman peut être la maman. Mais les enfants ont besoin de plus que cela. Et j'ai appris ça aussi du message de Frère Branham. Frère Branham a été confronté une fois à un problème avec sa fille Rebecca. On parle dans un message question-réponse en 1964. Et puis là, Rebecca, elle vit dans une famille chrétienne, prenait des leçons de piano. Et un jour, Frère Branham est allé la chercher avec la voiture. Et quand il arrive, il entend la musique du rock'n'roll ou du boogie-woogie comme ça. Il dit, mais c'est pas possible. Et c'était sa fille qui jouait cette musique-là. Il dit, non, mais quand même. Il l'a ramenée à la maison, il dit, mais écoute, je veux bien payer des leçons, mais pas pour jouer la musique du monde. C'est que tu apprends à jouer la musique chrétienne pour louer Dieu, mais pas la musique du monde. Et puis la Rebecca, qui avait 18 ans, elle montait un peu sur ses chevaux, ça avait une réaction un petit peu violente comme ça. Elle s'est énervée, elle s'est emportée, et tout, elle a claqué la porte et tout. J'ai appris quelque chose. Où Frère Branham a dit à sa femme, tu vois chérie, on essaie de donner le meilleur à nos enfants, un exemple, un enseignement approprié. Mais maintenant, il faut passer à l'étape suivante. Parce que maintenant, au niveau de cette relation, il y avait une cassure. Rebecca, qui avait 18 ans, ne voulait plus maintenant simplement dire « oui papa, oui maman » et voulait en faire à sa tête. Ça peut arriver à chacun d'entre nous, on a tous passé par là. Mais là, j'ai appris quelque chose qui me parle de la sagesse de Dieu. Et Frère Branham m'a dit, tu sais, à sa femme, sur médaille, pleurait, disait « oh là là, c'est vraiment, comment ça peut arriver chez nous ?» Et Frère Branham m'a dit, mais tu sais, les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir un copain. Un ami, un copain, quelqu'un de très proche. Il a dit, Meda, sois sa copine. Il a dit, à partir de maintenant, on ne va plus la réprimander, on va seulement la conseiller. Un changement de relation. Vous voyez la chose ? C'est plus, Rebecca fait ceci, Rebecca ne fait pas cela. Maintenant, ce n'était plus un petit enfant, elle avait 18 ans. Elle était toujours à la maison, mais maintenant, elle avait grandi. Et maintenant, il passait à une autre relation. Il voulait une relation amicale avec sa fille, comme ça. Donc, Rebecca, nous ne sommes pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je trouve que ce n'est pas bien ce que tu fais, mais c'est sous ta responsabilité maintenant, on t'aime toujours, on te respecte. Et Rebecca a dit, vous ne voulez quand même pas que je fasse tapisserie toute ma vie, etc., quand même, et tout, je ne peux pas faire ce que je veux, et tout ça. Et non, fais ce que tu veux, tout ça. Et maintenant, quand tu reviendras, Sœur Meda a dit, le repas sera sur la table. Pensez à cela. Combien de fois, nous, les parents, quand l'enfant vraiment persiste à en faire à sa tête, on dit, mais écoute, maintenant, je ne veux plus te voir. Hein? Tu veux faire ce que tu veux, vas-y, fais-le, mais maintenant, tant que tu n'auras pas changé d'idée, tant que tu ne voudras pas faire ce que moi je te dis de faire, tu n'es plus le bienvenu à la maison. Et ça arrive parfois dans les foyers. Hein? Que les parents disent à l'enfant, écoute, maintenant, j'en ai assez avec toi, tu m'as fait de toutes sortes de misères, je ne peux plus te voir, j'en ai ras-le-bol avec toi, tout ça maintenant. Si tu veux partir, pars, mais maintenant, je ne te connais plus, je ne sais plus qui tu es, c'est fini, tout ça. Et ça arrive comme ça, mais le pauvre jeune qui part comme cela, il a fait une erreur, il a fait une faute. Et il part, d'abord, il y a un moment de liberté, d'euphorie, puis après, quand il commence à voir qu'il est sur le mauvais chemin, il n'ose plus revenir à la maison, parce qu'on va fermer la porte. Et c'est à ce moment-là qu'il va chercher de l'aide auprès d'autres personnes, et souvent, les mauvaises personnes. Plutôt que de sortir de son trou, il s'enfonce encore plus. Parce que les parents ont une mauvaise attitude. Ils avaient toujours leur position de papa et maman en position d'autorité, mais n'ont pas réussi à s'abaisser pour avoir une écoute pour l'enfant et pour devenir le confident ou l'ami de l'enfant. J'ai aussi passé par là et Dieu m'a appris beaucoup de choses. Et j'essaie simplement de vous encourager aussi par cela. Et là, eh bien, à cause de ce changement d'attitude et changement de relation, eh bien, d'abord Rebecca a réagi violemment à tout cela, mais finalement elle a dit, elle n'y est plus retournée là-bas. Finalement, elle a compris que c'était pour son bien. Un autre exemple dans la vie du prophète. Frère Branham avait son fils aîné, Billy Paul. Vous avez entendu parler du frère Billy Paul Branham. Et Billy Paul, comme il avait perdu sa maman, vous connaissez l'histoire, eh bien, Frère Branham a dit, j'étais le papa et la maman pour lui. Il voyageait tout le temps avec moi, tout ça. Et même Billy Paul, alors qu'il était un jeune garçon, Dieu lui a fait le privilège de voir un jour l'ange du Seigneur. Ils étaient dans une chambre de motel quelque part, et le frère de Frère Branham qui voyage avec eux dormait, et l'ange du Seigneur est venu dans la chambre, et il a permis à Frère Branham de réveiller Billy Paul pour qu'il le voie, l'ange du Seigneur, qui se transformait en colonne de feu. Et Billy Paul l'a vu là dans un coin de la chambre, l'ange du Seigneur. Pensez-vous le privilège. Il a vu de ses yeux l'ange du Seigneur. Et Billy Paul était là à côté de son papa sur l'estrade. Il a vu les miracles les uns après les autres, les guérisons, les miracles, toutes ces choses magnifiques. Dieu à l'œuvre et tout cela. Donc vraiment, il était aux premières loges. Et alors qu'il était adolescent, un jour, Billy Paul rentre à la maison. Il est avec son vélo, il rentre à la maison. Il voit son papa. « Oh, bonjour papa !» Il vient pour embrasser son papa. Et Frère Branham lui dit, « Billy, pourquoi est-ce que tu fumes ?» Il dit, mais je ne fume pas, papa, je ne fume pas !»« Billy, ne me mens pas. Je sais que tu fumes. » Pensez à ça. Le fils du prophète qui se met à fumer en cachette. D'abord, il a nié. Après, Billy Paul a dit, « Non, Dieu le lui avait montré. Non, je sais que tu fumes. » Et là, Billy Paul s'est mis à pleurer. « Oh, papa, pardonne-moi, je ne le ferai plus tout cela. Pardonne-moi. » Et Frère Branham dit, il a continué à fumer malgré tout. Et un jour, il est tombé malade, Billy Paul. Et puis, il commençait à tousser, tout cela. Puis, il est allé chez le médecin, en cachette, pour recevoir un médicament, quelque chose. Et Billy Paul était très sensible. Il a fait une allergie au médicament. Il s'est retrouvé à l'hôpital entre la vie et la mort. Comme ça. Et le docteur Samader, un ami de Frère Branham, il a dit, oh, Billy, j'ai tué ton fils. Mais il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il est venu vers moi, il avait un problème respiratoire et tout. J'ai donné une piqûre comme ça, puis vraiment, il y a eu une forte réaction au médicament. Il était là, entre la vie et la mort. Et Frère Branham est allé prier pour lui. Dieu l'a ressorti de cela. Et pendant un certain temps, peut-être dans cette période, Billy ne venait plus à l'église. Il avait des mauvaises compagnies. Il aimait jouer à des jeux d'argent, des choses comme ça. Le fils du prophète, des mauvaises compagnies. Il n'est plus à l'église. Et c'est dur pour un papa pasteur, que son fils ou sa fille ne vienne plus à son église. Comme ça, bon, il nous enseigne, faites ceci, faites ça, mais d'abord, il faut que ça marche dans sa famille, qu'il prouve avec ses enfants. Pour ça, il y a beaucoup de pression sur les enfants des pasteurs, des prédicateurs, parce qu'ils sont le point de mire de tout le monde. Il faudrait que les enfants du pasteur soient parfaits, irrépréhensibles. Ce sont des êtres humains comme les autres. Et il ne venait plus à l'église. Et puis un jour, tout à coup, Billy a eu envie de venir à l'église, au Branham Tabernacle. Il s'est assis tout au fond de la salle, là-bas. Et comme par hasard, ce jour-là, Frère Branham a prêché sur le fils prodigue. Ah! Ça, c'était le message pour Billy. C'était vraiment le bon message. Et à la fin du message, bien sûr, un appel qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, qui veut se réconcilier avec Dieu et tout cela. Tout au fond de la salle, il y avait un frère ancien, je crois que c'était un diacre, qui vient vers Billy, qui dit, « Billy, t'as entendu ce qu'il en dit ce soir? C'était pour toi. Tu sais ce que tu dois faire maintenant. Tu dois vite aller à l'autre. bien intentionné. Hein? Juste pour encourager Billy à se réconcilier avec Dieu, avec le Seigneur, avec l'Église et tout cela. Mais qu'est-ce que Billy a fait? Il s'est levé, il a quitté l'Église. Et après la réunion, frère Branham est allé vers le frère en question, disant, frère, ne fais plus jamais ça. Laisse Dieu agir. Mais dans cette période où Billy ne va plus à l'église, sachant que Billy aimait aller à la pêche, et frère Branham aussi aimait aller à la pêche, frère Branham lui a téléphoné, Billy, t'aimerais aller à la pêche avec moi? Je crois que ça devrait bien mordre aujourd'hui. T'aimerais y aller? Donc Billy ne venait plus à l'église, donc il y avait une relation pasteur et fidèle qui était cassée. Il ne vivait plus à la maison, je crois qu'il vivait chez sa grand-maman. Donc il y avait un problème au niveau relationnel père et fils. Mais Billy aimait aller à la pêche et frère Branham aimait aller à la pêche. Eh bien, le père et le fils, comme des amis, sont allés les deux à la pêche. Et c'est Billy Paul qui raconte ça dans son témoignage. Que malgré le fait qu'il était rétrograde, qu'il s'était éloigné de Dieu, frère Branham cherchait à garder le contact en allant ensemble à la pêche. Pas pour parler de Dieu, pas pour parler de Bible, de rien du tout, juste être ensemble pour garder le contact. J'aime ces témoignages-là. Dis, Seigneur, donne-moi cette humilité-là. Que même si on m'a fait du mal, même si j'ai été blessé ou humilié ou comme ça, Seigneur, que je puisse passer par-dessus ma fierté, triompher de moi-même, et puis chercher à garder le contact pour au temps voulu pouvoir aider et encourager la personne. La relation d'amitié. Et quand on est ami, eh bien, on accepte le conseil. Regardez la lettre à l'église de Laodicée. Vous connaissez tout cela. Justement, j'étais inspiré hier soir quand frère Michel m'a dit, regarde ce vitrail qu'on a fait pour notre temps maintenant, hors âge. Il a dit, regarde, on a mis du pain et du vin sur la table, c'est pour la communion et tout cela. Il dit, c'est par rapport à Laodicée. Je dis, mais c'est vrai, c'est ce que je crois aussi. Eh bien, pour les croyants maintenant, pas pour les gens rebelles, mais pour les croyants de la fin des temps, eh bien, Jésus frappe à la porte. Hein, et c'est nous qui devons ouvrir la porte. Ce n'est pas lui qui va forcer la porte. On doit l'ouvrir de l'intérieur. Et Jésus a dit, si quelqu'un entend ma voix, et savez-vous que nous vivons dans l'âge de la voix? Si vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, prenez chacun des sept âges de l'Église, eh bien, nous sommes le seul âge où il est question d'une voix. Parce que ce n'était pas comme ça dans les autres âges. Des autres âges, c'était des lettres, hein, un message qui partait par courrier, par lettre. Mais nous sommes le seul âge maintenant où Dieu nous fait entendre sa voix. Et je crois personnellement que j'ai entendu la voix de Dieu, non seulement petit quand Dieu m'a appelé à son service quand j'avais 10 ans, là j'ai entendu sa voix intérieurement. Et je vais vous dire ceci. J'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus, j'avais 8 ans et demi. Et puis, quand j'avais 9 ans et demi, j'avais des moments de révolte, des moments difficiles. J'avais aussi souffert, mes parents étaient divorcés, j'avais plus de papa à la maison, tout ça. Donc, c'était pas facile, des moments de révolte. Un jour, c'était difficile. J'ai fait pleurer ma maman, et puis après, elle m'a dit, écoute, et puis je me suis même révolté contre Dieu. Je rendais Dieu responsable du fait que j'avais pas de papa à la maison. Pourtant, j'avais une très gentille maman dévouée qui m'aimait beaucoup, mais j'avais pas de papa. Mon papa était en France, moi j'habitais en Suisse. Donc j'ai eu des moments de révolte. Je peux vous dire une chose, j'ai un jeune garçon de 10 ans, mais ma maman avait peur de moi. Il y a des moments où je pouvais venir tellement agressif, tellement méchant, j'avais des couteaux, des choses comme ça, elle tremblait devant moi. Bon, elle était petite, une petite femme, encore plus petite que mon épouse, comme ça. Mais moi, un petit garçon de 10 ans, j'avais peur à ma maman. Des fois, tellement je pouvais devenir méchant, désagréable. Mais à d'autres moments, j'étais un petit ange. J'avais bon cœur, je partageais tout ce que j'avais, on me donnait un bout de chocolat, je coupais mon bout de chocolat, je donnais à mon grand-père, à ma grand-mère, à ma maman, à tout le monde, j'avais un bon cœur. Et à d'autres moments, un esprit venait sur moi et j'aurais pu tuer ma maman. Vraiment, j'avais les couteaux pour le faire. Ce n'était pas des couteaux en plastique, c'était des vrais couteaux, j'aimais les couteaux. Et tout à coup, j'aurais pu tuer ma propre maman dans des accès de révolte ou de colère. Mais ce jour-là, je me suis révolté contre Dieu. Je disais, mais pourquoi est-ce que j'ai pas de papa? Mes copains ont des papas, ils ont des mamans, ils ont des frères et sœurs. Moi, je suis tout seul. J'ai juste une maman, j'ai pas de frères et sœurs, j'ai pas de papa et tout ça. Et quand ma maman m'a entendu me révolter contre Dieu, après, je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Elle s'est mise à pleurer. Je dis, oh maman, pleure pas. Elle dit, mais moi, je te pardonne. Mais tu as parlé contre Dieu, maintenant, c'est grave. Maintenant, ça, c'est entre Dieu et toi. Si jamais, va le prier. Je suis allé vers mon lit, je me suis mis à genoux, et j'ai crié à Dieu. J'étais un petit bonhomme de 9 ans et demi. Et j'ai dit, oh Dieu, pardonne-moi, vraiment je regrette, mais je regrette ce que j'ai dit, tout ça, pardonne-moi. Enfin, je ne sais pas ce que j'ai dit, je me suis vraiment humilié devant Dieu. Et après cela, Dieu a parlé dans mon cœur. La première chose qu'il m'a dite, écoute ma voix, car ma parole est la vérité. Si tu me suis, ton chemin sera glorieux, etc. Donc il m'a donné, et il m'a appelé à aller dans les villes pour prêcher sa parole et tout ça. J'avais juste 9 ans et demi. Mais la première chose, écoute ma voix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime écouter la voix de Dieu. Dans un message, Frère Abraham m'a dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Il dit, oh mais je sens que certains n'ont pas apprécié ce que j'ai dit. Après, il répète, il dit, mais cette fois c'est par inspiration, je suis la voix de Dieu pour vous. Dieu avait besoin d'un porte-parole, Dieu avait besoin d'une bouche pour s'exprimer. Et c'est comme ça que je vois le message de ce prophète. Pour moi, je dis, ce n'est pas le message d'un homme. Un homme n'a pas grand-chose à m'apporter. Mais c'est l'accomplissement de l'Écriture où Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix dans l'âge de l'Odyssée. Et nous sommes le seul âge de tous les âges de l'Église où des dizaines d'années plus tard, on peut, comme si on y était dans la réunion, entendre la voix de Dieu nous parler par un prophète confirmé. Pensez à cela. Ça n'a jamais existé dans les âges précédents. Nous sommes dans l'âge de la voix. Plus que les écrits. Certains disent, je me rappelle, je crois une des dernières fois que j'étais venu ici, quelqu'un disait, ah mais vraiment, vous ne pouvez pas améliorer un peu ces traductions en français, il y a des répétitions, il y a des points de suspension, là, grammaticalement, c'est une catastrophe et tout. Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais pas besoin de le savoir. Mais enfin, il y a des frères et sœurs qui étaient un peu instruits, comme ça, qui disaient, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est pour une façon de s'exprimer, tout cela. Mais c'est plus comme l'âge précédent, ou l'âge de l'homme, où vous prenez Luther, Wesley, Finney, tout cela. C'était des hommes instruits qui avaient fait l'université. Leurs écrits, c'est ordonné, c'est méthodique, c'est clair, c'est plaisant pour l'intellect. Maintenant, c'est tout autre chose. Dieu a choisi un homme sans instruction, qui n'avait même pas fini l'école primaire, et qui dit les choses, il commence une phrase, il se répète, et il finit par la phrase et tout. Intellectuellement, c'est difficile à suivre. C'est vrai. Mais maintenant, si on peut mettre de côté ces obstacles naturels ou comme cela, qu'on dit, Seigneur, mais est-ce que c'est toi qui me parles? Je peux vous dire une chose, je peux maintenant écouter ces messages, je ne vois plus les répétitions, les bégaiements, les points de suspension, je ne vois plus ces choses-là. Je sens que c'est Dieu qui me parle, qui a quelque chose à me dire et qui me fait du bien. L'âge de la voix. Eh bien là, dans l'âge de l'Odyssée, Dieu dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Regardez cela. Le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il n'était pas que debout devant les gens, en train de leur prêcher, voici ceci, voici cela. Des fois, il leur a dit des choses très importantes autour d'une table. À Emmaüs, après sa résurrection, ils ne savaient pas encore qui était cet étranger qui cheminait avec eux. Mais ils sentaient, il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Il y a quelque chose de spécial, cet homme-là. Le soir était venu, il a dit, bien maintenant, au revoir, vous arrêtez ici, moi je continue ma route. Non, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Ils sentaient qu'il y avait plus. Et quand ils étaient autour de la table, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du pain, il l'a rompu, et à ce moment-là, leurs yeux se sont ouverts. C'était quelque chose qu'ils avaient déjà vu faire. Il dit, mais c'est le Seigneur! Et au moment où ils ont compris qui c'était, il a disparu à leurs yeux. Où était-il? Dans l'autre dimension. Il était toujours là avec eux, mais était devenu invisible, autour d'une table. Eh bien, quand on a mangé ensemble à déjeuner ou à midi aujourd'hui avec vous, mais j'étais pas là, ou votre pasteur n'était pas là en disant voilà, la Bible dit ceci, voici tel verset. Non, c'était pas une prédication. On parlait de choses et d'autres, on apprenait à se connaître, des témoignages ici, une expérience là, tout cela. Mais je crois que Dieu était là aussi. C'était une autre relation. Hein. Je vous ai donné à certains quelques témoignages, ou j'ai écouté votre témoignage. J'étais pas là comme un pasteur avec quelqu'un qui écoute une prédication. Non, c'était un homme avec un homme avec une femme, simplement au même niveau, sur plan d'égalité. Je crois qu'on a besoin de ça aussi. Enfin, certainement, je ne vous apprends rien, c'est ce que vous vivez tous les jours, mais je crois à cela. Et c'est ce que j'expérimente aussi de mon côté, peut-être un peu d'une autre façon, mais je crois à cela, à différentes formes de relations aussi de ce côté-là. Et c'est là où il dit, dans la lettre à la Odyssée, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. et je te conseille d'acheter moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je te conseille. Donc, un conseiller, il s'est abaissé. Un conseiller n'est pas quelqu'un qui vous oblige à faire quelque chose. Il vous dit simplement, d'après ma connaissance, mon expérience, eh bien, voilà ce que vous pourriez faire, vous devriez faire. Mais la personne est libre. Et ça, c'est la relation, une des relations que le Seigneur Jésus est en train d'avoir avec ses enfants, les membres de son épouse aujourd'hui. Quelque chose de tellement intime, de tellement proche, de tellement doux aussi. Hein? Et j'apprécie cela. Donc, tellement encore d'autres choses. Si on parle de la relation d'égalité, vous avez lu dans votre Bible, je devrais peut-être m'arrêter, mais vous avez entendu parler du souverain sacrificateur, que Christ est notre souverain sacrificateur. Bien, c'est quoi un souverain sacrificateur? C'est un homme, comme nous, mais qui doit nous représenter auprès de Dieu. Eh bien, c'est ce que Jésus est. Et combien de fois Frère Branham a dit, eh bien, Christ, notre souverain sacrificateur, est ici maintenant. Vous qui êtes malade, vous qui avez un problème, quelque chose comme cela, ne me touchez pas moi, touchez-le lui. Il est maintenant votre souverain sacrificateur qui peut compatir avec vos infirmités, qui peut sympathiser, qui peut plaider pour vous. La Bible n'appelle pas Jésus notre médiateur. De nouveau, à notre niveau, aussi pour intercéder en notre faveur. Oh, frères et sœurs, toutes ces choses, nous les savons, mais juste pour vous montrer, quand on connaît Jésus et qu'on connaît de mieux en mieux, je crois ceci, il est vraiment tout ce que notre cœur peut désirer. Tous les besoins qu'on peut avoir, à n'importe quel niveau, un besoin d'être conduit, un besoin d'être compris, un besoin d'être aidé, d'être soulagé, d'être, quel que soit le besoin de l'être humain, si on découvre maintenant pleinement le Dieu de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, chaque fois dans une nouvelle relation, eh bien, ça répond à toutes nos attentes, à tous nos besoins, et on peut être joyeux, heureux, épanoui, parce qu'on trouve tout parfaitement en Jésus-Christ. C'est ce que je crois. Que Dieu vous bénisse. Encore merci pour votre attention. On va encore prier, s'il vous plaît. Bien, Seigneur, nous voulons terminer cette réunion de l'après-midi. Seigneur, je prie, Seigneur, que quelque chose a pu être dit qui ait pu faire du bien, encourager. Seigneur, pardonne-moi si j'ai été maladroit dans mes paroles ou si peut-être je n'ai pas pu suivre ma pensée comme je le voulais ou être un peu désordonné. Mais Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit puisse faire pour ses bien-aimés ce que moi je ne peux pas faire, mais que tu puisses les aider, les encourager, les bénir, Seigneur, et les aider dans leur marche avec toi. Seigneur, nous sommes là pour mieux te connaître, pour mieux t'apprécier, pour mieux t'aimer. Seigneur, j'aimerais te reconnaître dans tous tes attributs. J'ai besoin de chacun d'entre eux. Que tu sois en position de supériorité, j'en ai besoin. Que tu sois en position d'égalité par rapport à moi, j'en ai besoin. Que tu te mettes en position d'infériorité par rapport à moi pour me servir, j'en ai aussi besoin. J'ai besoin de tout ce que tu voudrais me donner. Et je suis prêt à t'accepter, à te reconnaître dans toutes tes fonctions, dans tous tes rôles. Seigneur, j'ai besoin de tout cela pour, disons, être rassuré, pour être encouragé, pour être fortifié, pour voir clair par rapport à l'avenir. J'ai besoin de tout cela, Seigneur. Continue à te révéler à moi et à chacun d'entre nous. Seigneur, nous remettons entre tes mains ce soir. Bénis encore ce repas que nous aurons. Prépare-nous pour cette soirée. Seigneur, je ne sais pas ce que tu voudras ce que je dis ce soir. Seigneur, j'ai une inspiration, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir? Seigneur, aide-moi, Seigneur, à être sensible à ton inspiration pour dire ce qu'il faut dire. S'il y a des choses à ne pas dire, que je ne les dise pas. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et je te remercie chacun d'entre nous. Bénis encore cette assemblée. Bénis ce pasteur, ce ministère, sa famille. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs, pour la bénédiction qu'ils sont pour moi et mon épouse, pour leur accueil, leur chaleur, leur gentillesse. Bénis-les pour cela, Père, au nom de Jésus-Christ.